Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, enfin, nous allons analyser le dernier pay-per-view avant WrestleMania, 4 semaines avant le Biggest Show, Fastlane. Il est temps de résoudre les dernières énigmes, il est temps de faire monter la sauce et pour m'accompagner dans l'analyse de ce pay-per-view qui avait lieu à Cleveland, j'ai l'ami Chris. Salut Chris.
Salut Yerem, salut peuple de catch-up. Et bah, heureux d'être là pour reviewer un pay-per-view. Là. Je ne l'avais pas fait depuis les Survivor Series, donc c'est toujours sympa un pay-per-view à chroniquer parce que tu as les rosters des deux brands qui sont là, quoi, donc c'est sympa. Donc bien content d'être avec toi. On est chaud. On est sur la voie rapide.
Ah, on est super chaud. Alors, même si pour la petite anecdote, toi, il t'a fallu 8 heures après diffusion pour le voir. Moi, il m'a fallu 4 jours.
Voilà.
Je l'ai regardé en petits morceaux, hein, ce pay-per-view. Mais c'était un pay-per-view bouillant. Et on va sans tarder se lancer dedans avec, dans le pré-show, nous avions un petit 2v2, Biggie et Xavier Woods, qui ont eu maille à partir avec Shinsuke Nakamura et Rusev, dans un match plutôt bien emmené, plutôt bien enlevé, avec des heels qui ont fait une grosse démonstration. Là, Xavier Woods, évidemment, qui jouait le babyface en péril. Et Big E, qui était là pour les hot tags. Hein. Big E, c'est le powerhouse complètement ouf. On a eu droit à des énormes suicide spears, des coups de genoux, des coups de pied en veux-tu en voilà de la part de Nakamura. Et à la fin, on a eu l'accolade qui est placée. Woods qui s'est combattu, Big E qui s'en est pris, qui a éjecté Nakamura. Woods qui fait le roll-up sur Rusev pour le compte de deux, mais Big E tag et on place le Midnight Hour sur Rusev, je crois. Oui, c'est sur Rusev qui s'est pris le tombé. Ouais, dans un match qui, ma foi, n'a pas fait pâle figure face à l'habituel match des Cruiserweights. Et on verra un petit peu plus tard qu'on reverra Big E, tout ce petit monde-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce pré-show ? Est-ce que ça t'a mis direct dans l'ambiance ?
Ouais, alors bah, d'entrée, il a commencé avec la nouvelle que Andrade Herrera s'était annulé donc, et que c'était remplacé pour la carte principale. Donc déjà d'entrée dans le pré-show, ils annonçaient le Fatal 4-Way pour le titre US. Donc je t'avoue que du coup, le Andrade Herrera, j'étais content de le voir annulé et je me suis dit un Fatal 4-Way pour le titre US, je prends quoi. Donc c'était la première bonne nouvelle, et après le match en lui-même était pas mal, il y a eu quelques botches, hein. Il y a eu Xavier Woods qui a tenté un kick, qui a atterri dans la troisième corde, ils ont eu deux trois petits loupés dans le ring quand même.
Ouais.
Le match était pas mal si tu veux, mais Nakamura, Rusev, c'est un peu bizarre, encore une tag team un petit peu étrange pour moi, mais bon. Écoute, ils font une bonne équipe de heel dans le ring, ils sont solides. Du coup, le pré-show, ça reste que le pré-show et c'était plutôt pas mal. Ça mettait dans l'ambiance. Kofi était pas là. Globalement, ouais. Allez, ça lançait le truc. Ça lançait le truc.
Oui, voilà, c'est un contrat rempli. Hein. Si on leur demande pas vraiment beaucoup plus, hein, c'est le pré-show.
Ouais.
Du coup, on va pas s'y attarder, mais effectivement, au moins, ils sont pas plantés. Même si effectivement, Xavier Woods va falloir s'entraîner à viser. À viser mieux.
Monsieur, voilà.
Ça pour viser avec sa manette au jeu vidéo, là, il n'y a pas de problème. Hein.
Ah là là. Le geek.
Voilà. Passer un peu moins de temps sur la PlayStation.
Ouais, voilà.
Un peu plus de temps au dojo.
Être plus un wrestler qu'un gamer. Hein. Plus un wrestler qu'un gamer. Voilà. Mais bon, il est bon, hein, Xavier Woods, il est bon dans le ring quand même. Quoi. Mais là, c'est vrai que, je sais pas, il a botché un petit peu.
Un petit cran en dessous. Ouais, écoute, voilà.
On lui pardonne.
On peut pas être à 100% toute l'année, malheureusement. Du coup, on arrive aux choses sérieuses et on commence fort, puisque c'est les Ouzo qui viennent défendre leur ceinture qu'ils ont récupérée aux mains de Shane McMahon et le Miz. Alors, évidemment, c'est la folie puisque nous sommes à Cleveland, le Miz est de Cleveland, il arrive avec les couleurs locales, hein, le orange de et le marron là, des Browns, donc forcément c'est la folie dans le stade pour ce drôle de chouchou, hein, qu'est le Miz. Et du coup, on a un très bon match, une fois de plus, avec les Ouzo, hein, qui assure, qui délivre complètement. Shane qui fait toujours ses trucs complètement fous. On a des DDT dans tous les sens. Le Miz, évidemment, qui harangue la foule. On a alors ce passage complètement dingue où en fait Jey Uso est en haut des cornes et on a McMahon, Shane qui est de l'autre côté, qui s'apprête à faire le coast to coast en fait. Enfin, c'est Jey Uso qui s'apprête à faire un splash, je
Ouais,
crois.
c'est ça, ouais. Un splash et l'autre se prépare pour le coast to coast. Il y en a un qui est en fait qui est allongé dans le coin du ring, quoi, en attendant le coast to coast, et il y a l'autre frangin qui lui est au-dessus pour se préparer à un splash, quoi.
C'est ça. Et du coup, bah, les deux se lancent en même temps et il y a un pacte, il y a un pacte avec Shane McMahon qui fait le coast to coast sur donc Jey Uso qui a sauté en fait hein, et qui s'est bouffé là le fils du patron dans les dents. On a le Miz donc après qui revient. On a le papa important, hein, papa Miz. Qui est bah, au premier rang, qui a la
Ringside.
bonne place, qui a la bonne place. Et ça a toujours, par contre, on a toujours l'impression qu'il croit rien à ce qui se passe. Hein, le père du Miz, je
Alors, le
sais pas
père du
si c'est
Miz.
exactement quel est le métier de son fils.
Non, non, mais le
En
père
tout
du
cas,
Miz, on va avoir
il
l'occasion d'en parler, mais franchement.
avec sa grosse moustache de oh la vache,
Ah, c'est quelque chose, hein, le
de
père
votre
du Miz.
papa
Hein.
là, il me fait bien marrer. Tentative de frog splash du Miz à l'extérieur du ring. Oh, c'était complètement dingue. Il se bouffe les... il atterrit sur les Uso. C'était très très drôle. Après le match, non, pas après le match, pardon. Et donc, attends, comment se termine le match
Bah,
justement?
les Ouzo conservent de toute façon, voilà, les Ouzo conservent.
Les Ouzos finissent
C'est,
pas. Ouais, les
ouais,
Ouzos
voilà,
conservent. On a du super
il veut
kick
placer un splash en fait,
à
le
toutes les
Miz.
sauces.
Le Miz, il veut placer un
C'est Frog
splash,
Splash. Ouais, c'est ça,
mais
c'est ça.
et Ouzo, il contre quoi, et il contre avec les genoux, il met un roll-up quoi, il met un simple roll-up hein, pour la
C'est
victoire.
ça. Ouais, c'est ça, exactement. Le petit roll-up qui va bien, les petits filous, les champions. Voilà, hein, c'est eux la vraie tag
Ouais,
team, la
eux, c'est
meilleure
les
tag
patrons de
team
la
du
Tag Team
monde.
Division de toute façon.
À la fin, grosse séquence post-match, le Miz qui vient voir si Shane va bien, parce que quand même ce coast to coast là c'était assez violent. Et puis on a la petite embrassade avec le papa du Miz, Shane qui vient checker aussi avec le père du Miz. Et puis on commence à sentir la foudre qui débarque là, le ciel se couvre. Et ce qui devait arriver arriva. Shane McMahon attaque le Miz. Il le place dans son triangle, là, une espèce de triangle inverted, là, inversé, un peu étrange. Hein. Il a toujours un petit peu de mal à verrouiller cette prise-là. Sous les yeux du père du Miz, bon, qui laisse un petit peu faire. Il a du mal à intervenir pour sauver quand même son fils, dont la vie est en danger. Donc on a, ça y est, le heel turn. Le heel turn du fils du patron qui va pas mal s'attarder hein, sur le cas du Miz. Il va quand même pas mal prendre son temps pour lui foutre des gros coups de poing dans la tronche. Et il repart. On a d'ailleurs une petite séquence après d'interview où justement il envoie bouler la journaliste voilà, depuis sa loge de la famille McMahon. Donc on y est, on le sentait venir évidemment. Mais ça y est, un premier angle est débloqué pour WrestleMania. Avec Shane McMahon qui enfin accepte son statut de petit con et de heel. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh ben écoute, moi j'ai trouvé que c'était un excellent opener, on pouvait pas mieux faire hein, à Cleveland, Cleveland, Ohio, le Miz, voilà, tout était réuni, hein, c'était nickel.
The
Franchement,
Homeboy.
je pense que des fois il y a de quoi critiquer les openers dans les pay-per-views, c'est un peu passé bizarrement, les cartes sont un peu foutues bizarrement, mais on y reviendra d'ailleurs sur la carte, parce que pour moi elle a été faite un peu bizarrement malgré tout. Mais l'opener, pour le coup, était super bien placé. C'était ce qu'il fallait pour mettre en transe la foule. C'était parfait. Moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Dans le ring, c'était bon. Les Ouzo, de toute façon, c'est du archi solide. C'est les patrons de la Tag Team Division à SmackDown. Pour moi, il n'y a pas de doute. Donc, on pouvait avoir qu'un bon match, et tu l'as bien décrit, quoi. Et donc, c'était bien enlevé, bien rythmé. Voilà, un bon match de catch pour commencer ce pay-per-view. C'était cool. Après la fin, bon alors là écoute, on va parler tout de suite du père du Miz, qui est vraiment, je pense qu'il faut lui donner un award, c'est un acteur né cet homme.
Ouais, c'est les plutôt un Gérard, hein. C'est les Gérards, c'est ça là. Un Gérard du rôle
Ah,
secondaire.
c'était énorme, quoi. Ouais, non, c'était énorme. Et puis, bon, le beatdown de Shane. Bon, à la Shane, moi, il y a un truc qui me dérange. Un des trucs qui me dérange, ce mec, il est fou sur le ring, quoi. Mais moi, je le compare plus à un cascadeur qu'à un catcheur, souvent. Et parce que, par exemple, il a des trucs comme ses coups de poing, tout ça, quoi, que je trouve pas du tout crédible. Il fait des trucs fous, et puis à côté de ça, il fait des trucs très mauvais, quoi. Et si tu veux, bon, le beatdown, je sais pas, enfin, tu vois, je l'attendais, quoi. Là, franchement, le split, c'était là, c'était ce soir, de toute façon, c'était pour Fastlane. Donc, ouais, c'est arrivé. On peut pas dire que c'était hyper surprenant, mais ça a été plutôt bien foutu. Voilà, ils ont foutu. Le fait que Shane il arrache le t-shirt de Cleveland et tout, tu vois, quoi, l'humiliation ultime, quoi, tu vois, tu
Ouais,
as
ils avaient fait un
retiré le
t-shirt
Cleveland
Cleveland
is awesome, il lui
Awesome,
avait fait,
quasiment.
ouais, le Cleveland is awesome, là. Donc là, donc écoute, j'ai trouvé que c'était bien foutu, que c'était un opener pas mauvais du tout, sympa, qui m'était bien chaud pour la suite, là. Je trouvais que c'était plutôt. Parce que, en préambule, je pourrais te dire que ce Fastlane, quelque part, c'était un pay-per-view dont j'attendais pas grand-chose. Et voilà, c'est un truc, pour moi, c'est un truc de calage, de bouche-trou pour la Road to WrestleMania. Je pense que Raw et SmackDown pourraient se suffire à eux-mêmes. Tu vois, on avait parlé avec Raphaël à Raw la semaine dernière, mais le fait que, après Elimination Chamber, il pourrait très bien ne plus y avoir de pay-per-view. Et on pourrait tout régler à Raw et à SmackDown et faire peut-être pour le coup des Raw beaucoup plus intéressants. Mais
Ouais,
bon,
c'était le
ils
cas
ont.
auparavant,
Ouais,
effectivement.
c'était ça, c'était ça. Et donc, ils ont calé ce
Voilà, c'était
Fastlane.
un peu une sorte de super weekly où tu avais les deux écuries ensemble et où ils ont délivré, on verra, hein, on fera le bilan, mais effectivement, où il y avait des gros matchs et quelques angles qui ont un peu évolué, mais c'est vrai que c'est un pay-per-view qui, effectivement, aurait pu passer à la trappe.
Ouais, c'est clair. Je pense que c'est pour moi ça la mauvaise utilisation de Raw en particulier à la WWE, quoi, qui pourrait être. Là, on a eu beaucoup de matchs qui auraient très bien tenu dans un Raw, tu vois. Je pense au main event, je pense à un ou deux matchs pour le titre. Il y avait moyen de faire des choses. Enfin bon, bref. Si tu veux, le truc, c'est voilà, pour l'opener, en tout cas, ils se sont pas loupés. Moi, c'est vraiment une bonne entrée en matière.
Ouais, on a eu des super near falls là, notamment avec le Miz qui avait placé son skull crushing finally, l'arbitre était distrait, on a eu encore la bravoure, et puis effectivement, t'as raison, hein, Shane McMahon, bah voilà, comme tu dis, c'est vrai, tu as raison, cette comparaison est pas mal, et c'est presque plus un cascadeur qu'un catcheur, bah, tu lui ferais beaucoup de peine si tu lui disais ça, hein, parce
Oui,
qu'il
je
veut
pense, hein,
vraiment être
j'imagine bien.
one of the boys, hein, il veut être considéré comme un catcheur, et on peut le considérer quand même comme un catcheur. Mais c'est vrai qu'il a tendance à être vite grotesque, comme
Ouais, il a
il fait des trucs
quelques. Ouais.
complètement fous, et tu as raison, il fait aussi des trucs complètement cons.
Ouais.
Et bien, ça fait partie de sa signature. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'enfin, on se souvient de sa espèce de fil rouge là, avec Daniel Bryan il y a un an, où vous comprenez pas où il voulait en venir, où c'était un gros connard, et à la fin, ça restait quand même un face, là. Voilà, c'est bon, on y est. On a une drôle de dynamique, hein, quand même. On arrive à WrestleMania, et on va avoir un Daniel Bryan heel et un Miz face.
Ouais.
Face à Shane McMahon qui a fait un heel turn. C'est assez. Je dirais pas que c'est surprenant, mais voilà. Ils ont pris un peu le contre-pied, on va dire, de ce qu'on pourrait attendre de ça.
Depuis que l'autorité a repris en main les shows, le managing general des weekly et tout ça, je crois qu'il y avait peut-être une volonté de la famille McMahon de mettre Shane en heel pour peut-être créer une paire avec son père pour le coup. J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc, tu vois, à WrestleMania, Miz versus Shane avec les deux papas de chaque côté. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils envisagent par rapport au heel turn de Shane, mais surtout que pour le coup, on passe là vraiment d'un type qui était grave aimé par la foule, quoi. Hein. Shane,
Ah bah oui,
il
non
était,
mais...
c'était un face, vraiment face, quoi. Et là, du coup, ce heel turn juste avant Mania et tout, bon, on verra ce qu'ils vont mener. Pareil, pour moi, la transformation du Miz en face, c'est aussi assez surprenant. C'est bien joué d'avoir fait ça à Cleveland, là, de manière définitive. Pour le coup, si tu veux, ouais, sur cet opener, décidément, j'arrive pas trop à en tirer des choses négatives parce que je trouve qu'ils ont plutôt bien joué le coup, la WWE, là.
En fait, c'est ce genre de match d'occasion. On va pas s'éterniser, mais pour conclure, je dirais que c'est vraiment le genre de match d'occasion qu'il faut saisir à pleine main. Toi, le local, il est là, il y a la foule
Ouais.
derrière lui. On en profite pour développer l'angle où il se fait trahir, et comme ça marche les réactions. Et on va le voir avec le match un autre match qui était improvisé, où les réactions du public, ça peut être l'enfer comme ça peut être grandiose. Et là, c'était assez grandiose. Allez, on continue avec Asuka versus Mandy Rose, probablement le match le plus attendu de la soirée pour le titre SmackDown. C'est Mandy Rose, donc sa première opportunité pour aller chercher l'or avec une Asuka qu'on n'avait pas vue et ça y est, on la revoit enfin. On a notamment Sonya Deville qui est là pour faire les distractions, ce qui permet évidemment à Mandy Rose de prendre le contrôle du match. Tu parlais de botch tout à l'heure pour le pré-show, j'en ai repéré pas mal
Oui,
aussi dans ce
aïe, aïe, aïe,
match-là. C'était beaucoup d'approximations. C'était soit des botches, soit des approximations. Donc tu sentais que Asuka, en tout cas, j'ai trouvé au moins Asuka a essayé de tenir le match quand même malgré tout. Donc bon, voilà, trash talking évidemment des deux côtés. Le match s'emballe. Mandy Rose, pardon. Qui se prend. Enfin, Sonya Deville, pardon, qui essaye d'aider. Alors ça c'était assez bizarre. Elle a passé son temps à regarder en dessous du ring et à essayer de sortir quelque chose. La première fois, elle a rien trouvé. La deuxième fois, elle a trouvé un. C'était un kendo stick que Sonya Deville a sorti, je crois, de dessous du ring. Mais en fait, alors ça c'était assez chelou quand même. Elle a relevé le tablier du ring en fait. Et du coup, Mandy Rose s'est pris les pieds dedans. Et elle a glissé, et du coup, Asuka en a profité et pour placer son gros kick et à la fin conserver le titre. Et Sonya Deville tente de s'excuser auprès de sa copine, mais celle-ci semble insensible au désarroi de sa meilleure amie. Donc voilà, on est débarrassé de cette courte rivalité, a priori, on ne sait pas, entre Asuka et Mandy Rose. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment là le... Comment dire? Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était quand même pas terrible. Et sans vouloir spoiler, les filles étaient pas forcément à l'honneur ce soir.
C'était pas un bon match, je te confirme. C'était pas un bon match. Et Mandy Rose et Sonya Deville, ça a été même un petit peu dans la. Enfin, Mandy Rose, déjà en termes in-ring, ça a été catastrophique parce qu'elle a botché à 3-4 grosses. Et dont
Ouais.
une énorme prise complètement manquée. Enfin, vraiment. Asuka, si tu veux, par contre, Asuka, elle a fait son job dans le ring, je pense. Elle a fait avec ce qu'elle avait en face d'elle, quoi. Donc là, elle pouvait pas avoir une alchimie extraordinaire avec sa partenaire du soir, parce que là, très franchement, ça n'allait pas du tout du côté de Mandy Rose. Sonya Deville, tu l'as bien expliqué. On se demande encore ce qu'elle a foutu autour du ring, à soulever 1 000 fois le tablier, à regarder dessous. Finalement, je
C'est-à-dire
sors
que
un
même elle a botché, quoi.
kendo stick, et en plus, même elle a botché, quoi. Donc c'était quand même un petit peu pitoyable. C'était donc un très très mauvais match, il n'y a pas photo. La fin est complètement con en plus, puisque Mandy se prend les pieds dans le tapis, mais en fait, même à vitesse réelle, tu vois bien qu'en fait, en plus, elle le rate le tapis, qu'elle
Oui.
n'arrive même pas à se prendre les pieds dans le tapis correctement, qu'elle tombe. Et après, Asuka, heureusement, Asuka, franchement, elle fait le job parce qu'elle termine l'histoire direct, elle met un spinning kick au visage direct. Et le compte de 3 s'est terminé. Et merci Asuka d'en finir avec elle. J'espère que Mandy Rose va pas aller plus loin dans la title picture. Je suis déjà assez quand même ennuyé pour Asuka, de quel que soit l'adversaire qu'elle va avoir à WrestleMania. Mais j'espère que c'est pas Mandy Rose qui aura en face à WrestleMania, quoi. Parce que ça sera pas une bonne nouvelle pour le titre féminin de SmackDown.
Non, là, ce qui se dessine et ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est les mettre en rivalité, les deux copines, là, Sonya Deville et Mandy Rose, pour justement un petit peu qu'elles s'occupent un peu d'une espèce de low-card la féminine pour un peu faire leur classe, quoi, on va dire, continuer à faire leur classe, ou alors les envoyer dans la scène tag team, après tout, toi, c'est une équipe, voilà, elles s'occupent
Ouais,
de tout ça.
non, mais moi je pense que ça sera plutôt
Maintenant,
ça, ouais. Que,
ouais,
ouais,
Mandy.
effectivement, elles vont peut-être avoir une petite feud, et puis, mais elles se remettront en équipe pour aller chercher les. Il va falloir des équipes de filles aussi, hein, pour le titre par
Bah
équipe, quoi.
ouais,
Donc,
on en reparle, on va en parler là dans pas
ouais.
longtemps, mais effectivement, il faut des équipes de filles.
Et ouais.
Alors visiblement, WWE n'a aucun problème à aller en chercher là où il n'y en avait plus, mais on a l'avantage qu'il y en a qui existent là, donc qui sont là. On a fait monter comme des factions, des équipes avant même de créer la ceinture tag team. Alors autant en profiter. Donc effectivement, quel va être le programme pour Asuka qui qui a bien porté ce match de son côté, qui a fait ce qu'elle a pu, mais effectivement, c'est
Il y a pas, il y
compliqué
a pas, y a, si tu veux, il y a,
d'entrevoir
y avait pas photo
les
de niveau.
contenders. En fait,
À
il n'y
ce
a
que,
personne,
excuse.
quoi.
Ouais, il y a personne. Ouais. À ce qu'en fait, si tu veux, c'est, on a vu là dans ce match-là, bah voilà, t'as eu un main eventer quoi, avec Asuka, et puis t'as Mandy Rose qui est de la low mid card, voilà, et la différence était là, quoi. Quand tu vois les matchs que Asuka elle a pu sortir quand elle a affronté ou Becky ou Charlotte ou etc., tu vois, ça a toujours été des bons combats. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une championne qui a pas d'adversité en face au niveau. Moi, à SmackDown, je suis un peu ennuyé pour la division féminine parce que clairement, en face d'Asuka, y a perte. Je vois pas, tu vois, je peux pas te sortir un nom. Si je peux te sortir un nom de fille de NXT, mais à SmackDown, à l'heure actuelle, dans le roster de SmackDown, je te sors pas un nom de fille pour affronter Asuka à WrestleMania.
Ouais,
C'est que de la mid-card ou de la
Aro, on pourrait
low-card.
trouver quoi, tu
Aro,
vois,
ouais, Aro, ouais.
mais c'est vrai que c'est compliqué là. Je sais pas trop ce qui va se passer et moi j'en suis à me dire, je préfère qu'elle soit pas peut-être pas à l'affiche, mais j'ai pas envie de voir un match d'Asuka contre n'importe quelle fille de SmackDown à l'heure actuelle à WrestleMania quoi, parce que je sais que d'avance ça va être un match de merde, donc je préfère la voir dans le Battle Royale, dans la Battle Royale, que ou dans une séquence non catchesque on va dire quoi, ou un Open Challenge tu vois peut-être, garder l'Open Challenge, moi je pense que ça pourrait être
Ouais,
un
ou
bon
un
aussi
open
tu vois pour
challenge, ouais.
WrestleMania,
Un
je sais
open
pas, faut qu'ils
challenge.
trouvent un angle, faut qu'ils trouvent autre chose que d'aller encore ch choisir une low carder du roster de SmackDown. Donc voilà, ça c'est leur problème. Ils ont 4 semaines pour le résoudre. On va voir
Ouais,
comment ils vont se démerder.
malheureusement, elle est
Bon.
blessée, mais quand même, je lui aurais collé Ember Moon dans les pattes, quoi. C'est bien dommage
Bah
qu'Ember
ouais, je
Moon soit
pensais à
blessée,
ça. Raw,
quoi.
t'as Ember Moon et t'as Nikki Cross, quoi, qui sont les deux.
Ouais, à la rigueur,
Enfin, toi,
Nikki Cross.
des.
Enfin, Nikki Cross, elle a un peu disparu hein, ces dernières semaines là.
Ouais, je
Et
sais pas.
elle est
Je sais pas.
arrivée en force et puis boum, elle a. Par contre,
Ah
Ember
la
Moon, tu vois,
vache.
elles ont eu une rivalité énorme à NXT. Ember Moon, elle a la capacité d'être très 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 crédible dans le ring. Ça aurait pu être une adversaire de choix. Bon, mais malheureusement, on fera pas l'histoire. Elle est blessée, donc voilà.
Après, là, tu sais, je viens d'avoir une fulgurance. Bah, du coup, je fais l'aparté maintenant. Une fille qu'on n'a pas vue, mais qui était dans aucun. Une fille qu'on a vue, mais qui était dans aucun programme et qu'on voit beaucoup au grand désarroi de beaucoup de membres de l'équipe de Catch-Up, c'est Lacey Evans. Lacey Evans, on se l'a encore bouffée dans ce pay-per-view. Elle est venue pendant une séquence d'Elias, qui au passage bah, a fait au moins trois apparitions durant le pay-per-view où il résumait plus ou moins ce qui se passait. C'est plutôt drôle d'ailleurs.
Ouais, c'était
C'était
sympa ça,
assez marrant.
tous les passages avec Elias en espèce de fil rouge du pay-per-view, c'était plutôt sympa ça.
Ouais. Et puis bah, comme ça on termine avec ça. Et d'ailleurs il s'est bouffé un RKO par Randy Orton, qui lui s'est bouffé un Phenomenal Forearm par AJ Styles, qui sont venus donc encaisser leur chèque pour 3 secondes d'apparition.
Voilà, c'était la séquence inutile avec les deux séquences inutiles du pay-per-view, l'apparition de Lacey Evans et le RKO et le Phenomenal Forearm de AJ qui ont vraiment. Enfin ça c'était un peu, ça faisait presque un petit peu pitié quoi. Bon ok, vous êtes venus chercher votre chèque les copains, d'accord. Eh
Ouais,
bah.
ça faisait pitié. Donc voilà, moi je dis Lacey Evans pour Asuka WrestleMania, ça me paraît pas si improbable que ça. Bon, on va essayer de se tortu arrêter de se torturer hein, avec le sujet. On va passer à un truc qui va faire débat, je pense. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas entre toi et moi, mais une drôle de séquence puisqu'en fait on a eu les New Day, Kofi Kingston, qui ont été convoqués dans le bureau du grand patron de Vince. Et Vince a dit que ce soir, alors tu me dis si je me trompe dans la formulation, mais il a annoncé que Kofi Kingston serait dans un triple threat, enfin c'est ça, hein, qui serait dans un match ce soir lors de Fastlane, et que ce serait le triple threat. C'était un petit peu étrange. Et du coup, bah, qu'est-ce qui fait que Kofi, bah, il se rend au match. Sauf que, au moment où on annonce le début du match, ça s'agite parmi les officiels. Et finalement, il est révélé que Kofi Kingston va se retrouver dans un match à handicap face à The Bar. Un 2-on-1, mais avec les Texas Tornado Rules, c'est-à-dire que les deux membres de The Bar, donc Cesaro et Sheamus, pouvaient se battre, donc combattre en même temps. Du coup, évidemment, Kofi Kingston s'est fait rouler dessus, même s'il a eu quelques actes de bravoure et des tentatives de comeback, mais à chaque fois, les heels lui pétaient la tronche. On a évidemment eu des chants This is boring de la part de la foule qui était sûrement comme moi à pas comprendre là, ce qu'on était en train de nous raconter. À la fin, les New Day sont venus, donc Woods et Biggie sont venus aider leurs potes qui s'étaient fait quand même un petit peu avoir par Vince McMahon, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps d'aider leurs potes. Ils se sont fait attaquer par Rusev et Nakamura, leurs adversaires de l'opener. Le bar a placé un double white noise et Kofi Kingston, on ne reverra plus Kofi Kingston de la soirée.
Non.
Du coup, voilà encore un angle. On se complique encore chose là, non? Je sais pas. Moi, je commence à décrocher de cette histoire de Kofi Kingston et on verra encore un peu plus pourquoi avec le match avec Daniel Bryan. Je comprends l'idée. On nous fait une espèce de Daniel Bryanisation ou Becky Lynchisation de Kofi. Mais un, je trouve que ça fait beaucoup. On a quand même deux histoires parallèles assez proches avec Becky Lynch d'un côté et Kofi Kingston de l'autre. Et surtout, là, je pige vraiment pas l'angle en lui-même, en fait, de Kofi Kingston qui, vous voyez, se fait tabasser par The Bar. En fait, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se fait punir? Parce que concrètement, il a été viré de la title picture par Vince McMahon.
Ouais.
Pourquoi lui faire un sale coup comme ça, toi? C'est assez... Quel est le...
Bah écoute,
Pourquoi, toi?
c'est un angle, encore une fois, un angle et un match qui aurait pu avoir lieu dans un weekly, ça, tu vois. On aurait très bien pu se passer de
Ouais.
ça dans un pay-per-view, franchement.
Peut-être ça qui m'a gêné, ouais, peut-être.
En plus, voilà, tu vois, moi, le truc comme ça, handicap match, 2 contre 1, je te tabasse, derrière, il y a les potes qui viennent, derrière, il y a les autres, et l'autre équipe de heel qui vient, out of nowhere. Bon, moi je t'avoue, ouais, encore un passage dans ce pay-per-view qui est quand même assez faible, assez moyen, pour pas dire médiocre, quoi. C'est ce tabassage systématique de Kofi, où effectivement, Kofi, il est là sous un angle de victimisation maximale. Voilà, bon, c'est un peu. On est à 1 mois de WrestleMania, si tu veux, quoi. Donc bon, il va falloir qu'il trouve d'autres artifices pour nous faire rêver, parce que là, franchement, on peut pas dire que c'est tout ça, ça a fait beaucoup rêver, quoi. En plus, le match, il n'y a pas de match de toute façon, quoi, parce que Kofi, au final, il se fait tabasser, quoi, hein, ça dure pendant
C'est
5-6 minutes.
ça.
En fait, voilà, tu as le droit à 5-6 minutes de beatdown. Bon, c'est pas, franchement, c'est vraiment pas le genre de truc très intéressant.
Non, parce que c'est la foule, enfin, t'es pas là, genre, on prenait pas en pitié Kofi Kingston, on est déjà triste pour lui parce qu'il s'est fait virer la title picture, on n'a pas besoin, comme tu l'as dit, de le voir se faire victimiser. Moi, ce que je demandais, quand il s'était fait jarter de la title picture, non, c'était même pas ça, c'était avant même qu'il se fasse jarter, c'était au moment où, ça y est, il avait son match face à Daniel Bryan, il y avait la signature. J'étais là, je dis, maintenant, j'ai besoin pour embarquer derrière Kofi Kingston que Kofi Kingston monte sa hargne, toi, monte sa fougue, qu'il prenne le micro et qu'il nous embarque dans son histoire jusqu'à WrestleMania, qu'il ait des bâtons dans les roues, pas de problème. Enfin, pas de problème. Pourquoi pas? Ok, d'accord, on veut nous la refaire. Mais là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, totalement l'opposé. Ils veulent pas qu'on s'attache à Kofi Kingston parce que ça fait des années qu'il se bat et que. Bah voilà, c'est l'underdog ultime. On veut l'angle maintenant, c'est il faut le prendre en pitié parce qu'il se fait tabasser, quoi. Enfin,
Ouais, 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 ouais. C'est un,
c'est triste.
oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que utiliser ce genre de segment pour rendre triste la foule face au traitement injuste appliqué à un favori de la foule à ce moment-là, c'est un peu, ouais, c'est un peu fou, quoi. Mais ça, c'est. D'ailleurs, le public s'y trompe pas. Hein. À la fin, la fin du combat se passe quand même sous des This is boring tonitruants,
Ah
quoi.
ouais.
Donc,
Ouais.
tu vois, quand même, la foule se trompe pas. Là, il n'y a pas d'histoire de Kofi, Kofi. Il n'y a pas, c'est This is boring que chantent les gens, quoi. Tu vois, donc, bon, des fois, à force de prendre la foule pour des cons, quand même, bon, il y a un moment où des fois, ça passe plus. Donc,
Ouais.
tu vois, je pense que là, c'est pas passé pour le coup. Mais
Non.
voilà, ils sont passés vite fait à autre chose. Hein, et comme tu l'as dit d'ailleurs au départ, enfin, Kofi est plus revenu, on l'a plus revu du pay-per-view après derrière.
Bon, voilà, une fois de plus, je suis curieux parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça parce que, comme tu dis, on est à 4 semaines et tu fais pas des choses comme ça 4 semaines avant avec un mec qui, de toute façon, qui est même plus au programme et qu'il n'y a pas vraiment d'histoire finalement derrière lui, quoi. Toi, il a juste mis complètement de côté, toi. Il n'y a plus vraiment d'histoire autour de Kofi. C'est plus vraiment le point central. On a déplacé le point focal de la title picture sur autre chose. Et c'est bizarre en fait, c'est une espèce d'histoire parallèle d'un mec qui se fait victimiser alors qu'il avait déjà été jarté de la title picture. Donc tout ça est assez étrange. Donc 4 semaines une fois de plus pour redresser la barre à cause de The Bar. En parlant de tag team justement, on a eu un gros match. J'espère, je pense qu'il t'a plu celui-là.
Ah,
si,
qui fait remonter bizarre, voilà, à un moment du pay-per-view où c'était bien qu'il y ait un match sympa qui arrive, quoi.
La vache, celui-là, alors, on peut dire tout ce qu'on veut avec ces montées d'NXT, ça a été fait n'importe comment, et peut-être qu'on peut considérer que ça continue toujours d'être du grand n'importe quoi, de voir Aleister Black et Ricochet en équipe, genre comme ça, normal, comme s'ils étaient là depuis des années, face à Rude et Gable qui tentent d'aller chercher la ceinture à The Revival. Écoute, un match de
Un
10-15
gros.
minutes, complètement fou, avec de l'action de dingue, des contres, en veux-tu, voilà, des séquences d'enchaînement improbables, quoi. Ça sentait le NXT, mais à plein nez, ce match-là. On a
Allez.
notamment Ricochet, là, qui place évidemment oh oui, des ciseaux de tête dans tous les sens. Scott Dawson qui, voilà, qui balançait à droite à gauche. Et à la fin, nous, Dawson qui contre un crossbody de Gable et les champions qui conservent avec la Shatter Machine sur Gable dans un match mais qui était à 300 à l'heure. Et par contre, alors ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre après le match. Les gars d'NXT sont venus, ils ont attaqué tous les, enfin les heels quoi. Et Ricochet a placé son 630 degrés là, son Senton à 630 degrés sur Wilder pour que bah on finisse sur la belle image des face qui sont des mauvais perdants. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, d'un point de vue purement action, là on a été gâtés. Et je sais pas toi, mais vraiment moi j'avais chanté le petit show jaune là, chanté le NXT
Ah
quoi.
ouais.
Y a pas à dire, ça y est, on commence quoi.
Alors là, j'ai des trucs à dire, là, des trucs positifs, c'est cool quand même, parce que moi je regarde le catch pour la positivité, tu vois, et c'est quand même cool quand on a des trucs sympas à raconter plutôt que des critiques comme sur le handicap match précédent, tu vois, quoi. C'est toujours avec la WWE, on souffle souvent le chaud et le froid,
Ouais.
hein. Mais alors là, pour le coup, voilà un super match tag team, quoi, vraiment clair. Alors, comme tu dis, un gros background NXT incroyable, quoi. Parce que quand même, si tu fais l'analyse des trois équipes en présence, t'as quand même les Revival qui ont été champions tag team NXT, t'as Ricochet qui a été champion nord-américaine, t'as Aleister Black qui a été champion NXT, t'as Bobby Roode qui a été champion NXT, t'as Chad Gable qui a été champion NXT tag team, quoi. Imagine le line-up, quoi, qu'on a dans ce match. Et c'est vraiment un truc de fou, quoi, avec un Bobby Roode à qui tu lui rajoutes un titre US. Enfin, tous les mecs qui sont dans le ring dans ce triple menace là, c'est du feu, quoi. Donc tu l'as dit, quoi, du match à 300%, du feu, vraiment. Ouais, j'ai vraiment kiffé ce match, c'était vraiment super sympa. Ça s'est passé même trop vite. C'était voilà, de l'action, de l'action, de l'action, du feu. Gable et Roode à l'aise, quoi, parce que je les trouve moyens, moi, on va dire, globalement. Et pour le coup, à l'aise dans ce match, parce que du
Ouais.
rythme, parce que à 6 catchers, de l'action ringside. Tu vois, là, ça envoie dans tous les camps, dans tous les sens. Root, c'est quand même un vétéran, il connaît le job. Gable, il est bien spectaculaire quand il s'y met. Il a une puissance assez insoupçonnable, Gable, finalement, quoi, pour sa taille et son poids. Et non, c'était un super match. Et puis, bah, Ricochet, c'est Spider-Man, quoi.
Ah, ça, ouais.
Je veux dire, les fans de catch, on a la chance d'avoir un Spider-Man vivant sur nos écrans de télévision, quoi. Et ça, c'est quand même
Ouais, ils sont
génial.
bien cachés, hein, les câbles, pour le tenir quand même, on les
Ah
voit
ouais,
pas, hein.
hein, ouais, ce mec, enfin moi je le connais, je le suis depuis tellement longtemps, l'ami Prince Puma, l'ami Ricochet, voilà, et le voir à la WWE, si tu veux. Moi j'étais inquiet hein, de comment ils allaient traiter ce catcheur-là. Voilà, son entrée dans le main roster, là, pour l'instant, me plaît pas des masses, mais malgré tout, comme je trouve ce catcheur totalement incroyable, quoi. Totalement. Enfin, il est hors norme. Il est hors norme. Je veux dire, c'est dans l'histoire, là, il y en a eu plein, hein, des voltigeurs, des high flyers, des gars comme ça dans l'histoire de la WWE. Il y en a eu plein. Mais là, il y a un type totalement hors norme qui vient d'arriver, qui voilà, qui saute du ring, qui fait des doubles sauts-pairs et qui atterrit sur la rampe debout. Enfin, je veux dire, qui vient se mettre face à des catcheurs comme ça. Enfin, ce gars-là est incroyable, quoi. Aleister Black, c'est un catcheur plus old school. Mais moi, j'aime Aleister Black, j'aime ce qu'il dégage. Tu vois, le personnage, ce qu'il y a un truc en lui, quoi, qui, tu vois, une espèce de bestialité. Mais ouais, vraiment, le truc Black a été bien trouvé parce qu'il est bien dark, quoi. Et c'est pour ça aussi que cette équipe, elle peut me paraître des fois un peu improbable, quoi.
Elle, bah, elle est totalement improbable. Enfin, clairement, les mecs n'avaient aucune raison d'être ensemble. On les a foutus là, mais mis à part tout ce côté personnage, enfin, qu'est-ce qu'il va attendre en termes de rivalité et d'histoire? Là, pour l'instant, ça fait 3 semaines qu'on leur demande juste de faire des bons matchs.
Ouais,
Et
voilà.
là, c'était le grand rendez-vous avant WrestleMania. En pay-per-view, les gars, est-ce que vous êtes capables de nous proposer 10-15 minutes d'action
Un
non-stop?
4
Et ben,
étoiles,
la
et voilà,
réponse.
un 4 étoiles.
Et.
Est-ce que vous êtes capable de nous
Voilà, la
sortir un
réponse
4
c'est oui,
étoiles dans
la
un
réponse c'est
pay-per-view?
4 étoiles. Et effectivement, là, on était gâtés, hein. On était
Ah
gâtés,
ouais.
ça faisait plaisir.
Et puis ça fait plaisir, on n'en a pas parlé, mais en fait ça fait plaisir aussi de voir les revivals garder le titre, tu vois,
Ah
mettre une
oui,
certaine
ah
stabilité
oui.
sur le règne. Parce qu'on aurait pu un peu avoir peur un peu hein, pour les revivals ce soir. Hein. Les Ricochet Black s'annonçaient bien en prétendant à gagner la ceinture. Roode et Gable c'était les anciens tenants du titre, donc c'était un match dangereux pour les revivals.
Ouais. Hein, je t'avoue que moi, au bout d'un moment dans le match, je les voyais tous gagner. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est pas compliqué. C'est que le match est bon. C'est que le booking est bon et le storytelling, il est bon.
Ouais,
Si
ouais.
à un moment donné, si au début du match, t'es là, ouais, non, c'est bon, je sais ce qui va se passer. Et qu'en fait, 10 minutes plus tard, t'es là, oh putain, sur chaque action, tu sais.
Et ouais,
Bah
et
voilà.
ouais.
Hein, il y a eu des petits coups de frousse à un moment quand même. Colotte, il a fait son ciseau, là, retourné, ricochet, et en envoyé un des revivals. Et en fait, le mec, il est pas parti très loin. Il est tombé quasiment à l'endroit où il s'est éjecté. Les autres l'ont bien rattrapé. Parce que les mecs, ils étaient au taquet, quoi, ils étaient au taquet.
Ah ouais, c'est à 2000 à l'heure.
Et. Ouais. Et on est. C'était pas fini. C'est pas fini parce qu'on a enchaîné sur, tu en as parlé, là, dans le pré-show, un match qui n'était pas booké ce soir. On a un Fatal 4-Way pour le titre US. Samoa Joe qui vient défendre son titre face à R-Truth, qui vient chauffer la salle avec Carmella. Rey Mysterio et Andrade rejoignent ce petit monde. Ce match, on l'a déjà vu. À SmackDown, eh ben, ils nous refont le même, peut-être même en mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pareil, c'est des mecs qui se connaissent par cœur, qui ont une alchimie de dingue. Rey Mysterio, Andrade Cien Almas, c'est juste. Enfin, c'est formidable de voir comme ça. Alors, c'est peut-être seulement un aperçu de la lucha, hein. Tu es l'expert, tu
Ah
sauras me dire si
ouais, non
tout
mais...
ça n'est que un dixième de ce qu'on peut voir, mais en tout cas. Ils ont tenu leur rang, on a eu quand même des sacrés moves une fois de plus. R-Truth qui a fait l'idiot, R-Truth qui à la fin en pouvait plus, il avait du mal à placer ses coups. R-Truth à la fin, il visait un petit peu un coup trop à gauche, un coup un peu trop à droite. On a une petite séquence entre les managers Carmella et Zelina qui se mettent sur la tronche, avec notamment un énorme kick, je crois, de Zelina sur R-Truth peut-être. Bah oui, ça me
Ouais,
semble
ça me
pas
semble
mal.
ça, ouais.
Grosse baston des managers à l'ancienne, évidemment. Tout y est en fait. Si vous avez déjà vu leur match à SmackDown, il n'y avait pas eu de grosses, grosses surprises. Et à la fin, Mysterio place son 619 sur Samoa Joe. Mais Samoa Joe arrache, enfin, tire le Mysterio par le slip et il le fout dans le coquin à clutch. Et Rey Mysterio s'endort aussitôt, hein. Il tombe dans les bras de Morphée assez rapidement. Et voilà, encore un deuxième match, là ça a enchaîné. C'est peut-être d'ailleurs ça que tu as trouvé peut-être un petit peu bizarre, parce qu'on a eu deux matchs de 15 minutes d'action très élevés, très enlevés, qui sont enchaînés, avec évidemment Samoa Joe qui conserve son titre. Et une fois de plus, hein, les quatre mecs ont totalement délivré.
Eh ben, 4
Donc est-ce que
étoiles,
tu...
tu vois,
Ouais.
direct, moi j'attaque fort, pareil, deuxième match 4 étoiles, quoi, tu vois, quoi, franchement, c'était un super combat, quoi. Alors, tu parlais de Lucha, hein, mais bon, Rey, ça reste quand même une référence, Lucha, incontournable, voilà, c'est le king, cet homme, c'est le king, je le trouve dans une forme éblouissante, éblouissante, le
Ah,
Rey, quoi,
il est
hein,
loin
pour...
le temps où il avait
Oh
son petit
oui, il était
débardeur pour
en...
cacher
Ouais...
Ces petits excès, alors.
Quand il était en mode burrito, là, ouais, du temps aussi du 2014, ces périodes-là où il n'était absolument pas en forme. Je constate que, bah, comme beaucoup de lutteurs qui arrivent de la lucha underground, ils arrivent, c'est marrant, ils sont tout le temps vachement en forme quand ils arrivent de la lucha underground. Et Ray Ray n'a pas fait défaut, il est revenu de la lucha underground en pleine forme. Et non, c'était un super combat, hein, les quatre, hein, moi les quatre, hein, parce que Ertrus, je le trouve hyper impressionnant dans le ring. Andrade, c'est un worker de dingue, quoi. C'est un mec, là, dans les années futures, Andrade, tu vas voir, il va choper du titre mondial, il va. Andrade, c'est le latino que cherche la WWE depuis Eddie Guerrero, quoi.
Ah bah ouais, évidemment, là la passation de pouvoir, elle est évidente,
Oui,
alors.
voilà, ouais. Et puis tu vois, Andrade,
Ouais.
il faut lui laisser un peu de maturation, là, tu vois. Mais ça y est,
Ouais.
il commence à utiliser le Triamigos, il commence à avoir de plus en plus de gimmicks à la Eddie. Et d'ailleurs,
Il a une confiance en lui, dingue, quoi,
Corey
enfin.
Graves l'évoque très très finement pendant le combat d'ailleurs du pay-per-view et de cette de voilà de ce truc en plus de ce truc entre Ray Ray et Andrade par rapport à Eddie quoi tu vois et ça
Ouais.
c'est chouette quoi moi je trouve que c'est bien et le voilà et le combat en lui-même eh ben, c'est un super combat Ertrus en ce moment est génial il est bon dans le ring et en plus il est génial dans toutes les références à Cena c'est son
Ah
espèce de
oui, parce que le
folie
match, effectivement, t'as raison
permanente
de le dire, le match se termine par un énorme hommage avec le Five Knuckle
Oui, oui, voilà,
Shuffle
ouais,
et il a tout
exact,
placé. Il a fait
c'est...
aussi le shoulder block. Enfin,
Ouais, ah, c'est
c'était.
fantastique, non mais Ertrus, il est fantastique en ce moment, il me fait rire, mais c'est un truc de dingue, quoi. Toutes ces références, etc., sont super, enfin, c'était un super combat. Et puis au milieu, t'as ça, t'as le powerhouse, quoi. T'as Joe qui est monolithique et qui défonce la gueule à tout le monde, lui, sans savoir
Exact.
qui est heel, qui est face, qui a rien à foutre. Vas-y, moi je démolis tout le monde, quoi. Et du coup, il nous fait un super champion US, l'un des champions US les plus crédibles qu'on ait eu depuis bien longtemps, je crois.
Ouais, franchement, c'est. J'adorais parce que le match commençait à s'emballer, t'as vu les mecs, les acrobates, là, qui commençaient à faire leurs pirouettes, et tout d'un coup, Samoa Joe qui arrive, qui met un putain de coup d'épaule, deux cordes à linge, tout le monde est par terre, et continue, juste en marchant, tu sais, puis. Limite, il s'arrête en regardant la caméra droit dans les yeux, tu sais, avec son petit sourire comme ça, narquois, fait hey, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est bien beau de s'agiter dans tous les sens, mais c'est moi le patron ici.
Joe, il se retrouve comme dans une situation en plus où, d'accord, effectivement, c'est un brutor, il va démonter tout le monde, etc. Mais comme il met des bons kicks aussi, du coup,
Ouais,
les
ça claque,
luchadors,
hein.
ils sont surpris parce qu'en l'air, là, quand ils sont en train de sauter dans tous les sens, bah, bam, ils sont cueillis par le super kick de Joe, qui est quand même un des super kicks les plus dévastateurs du roster, à mon avis, là, tu vois. Parce que quand tu te prends un super kick de Samoa Joe, moi j'aimerais pas trop y être quoi. même si c'est du catch, même si tu vois quoi, ben non j'aimerais pas trop y être quoi. Et Joe il esquive un splash et derrière il enchaîne la coquina quoi. Et voilà quoi. Bon, d'ailleurs Ray Ray il abandonne pas, hein, il tape pas. Hein, Ray Ray il s'évanouit quoi.
Ah bah oui,
Et
non mais c'est bien,
Ray Ray il s'évanouit direct quoi.
voilà, non
Et
mais
Joe derrière,
ouais.
et ben, il fait du Joe quoi. Derrière il célèbre pas comme un furieux etc. Il en rajoute pas, il monte juste sa ceinture et puis bah basta quoi. Voilà, je suis toujours le patron du titre US et puis point barre. Merci Monsieur Joe.
Ouais. Bon, on est content qu'ils aient annulé ce match entre Rey Mysterio et Andrade, hein,
Ah
parce que
complètement, complètement. Même
là
si
c'est.
Ray Andrade ça aurait été un bon match, mais là enfin ça a été
Ouais, mon
magnifique de
sauvegarde
les
pour
avoir en
WrestleMania,
Fatal
c'est vrai que
Four-Way.
là.
Ouais. Enfin, c'était un super match. Enfin, franchement, voilà un truc bien sympa.
Bon. Allez, on retourne chez les filles avec. La première défense de titre, hein, si je ne m'abuse, en tout cas peut-être en pay-per-view.
Ouais,
Est-ce qu'elle l'a
ouais,
déjà
ouais.
défendue en
Défendu en
weekly?
weekly. Non, je
Les
crois pas. Hein.
filles.
Je crois que c'était la première
Non, non,
défense. Hein.
c'est
C'était la
première
première
défense de
défense.
titre. Voilà, vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des grosses conneries comme d'habitude. Bayley et Sasha Banks, donc affronter Nia Jax et Tamina. Match franchement pas terrible. Moi, en fait, honnêtement, je dirais match de merde. Puisque, enfin voilà, les filles, voilà, ont fait ce qu'elles ont pu. On avait Nia Jax et Tamina qui jouaient les Powerhouse, et puis Bayley et Sasha Banks qui, bah voilà, ont surmonté l'adversité. Et on a à la fin un petit roll-up. En plus, ça se termine en roll-up avec Bayley qui fait un roll-up sur Nia Jax.
Le petit paquet qui va bien.
Ouais, un petit paquet, voilà, c'est un colissimo pour vous, Madame Jax, pour la victoire. Et voilà, tout ça n'est pas important. Ce que je trouve un peu dommage, en fait, c'est ça que j'ai trouvé un peu nul, c'est qu'on a une première grosse défense d'un nouveau titre, et en fait, l'histoire, c'était pas du tout ça. L'histoire, c'était qu'après le match, les méchantes, enfin, Snuka met un gros kick à Bailey, et Jax envoie balance Sasha Banks sur la table d'annonce, ce qui énerve Beth Phoenix qui était venue au commentaire pour l'occasion. On a un combat de regard qui dure trop longtemps entre Beth Phoenix et Tamina. Et Beth Phoenix qui va se faire rouler dessus. Et évidemment, Natalia, l'ancienne partenaire de Beth Phoenix, arrive pour la sauver. Mais elle se fait aussi très bien accueillir par Nia Jax et Tamina. Et voilà, c'est la reformation de. Divas of Doom ou les Glamazones ou n'importe quel nom qu'on aura pu leur donner à l'époque. Donc voilà, l'histoire elle était là. Donc moi perso, j'ai trouvé ça très dommage que justement on n'ait pas mis le focus plus sur le match que sur cet angle. Même si j'avoue que je suis très content d'imaginer un petit retour là de Beth Phoenix avec Natalia. En équipe, puisque pour moi, le seul moment où Natalia est relevant, ce qu'on dit, c'est quand elle était en tag team avec Beth Phoenix. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première défense de titre?
Alors écoute, bon bah Bayley et Sacha conservent, tant mieux, parce que ça m'aurait ennuyé de voir Tamina et Jax avec le titre. Parce que vraiment toutes les deux, vraiment, Tamina dans le ring, elle vaut plus rien. Moi bon, j'ai fait plusieurs rôles là ces derniers temps, et bon, on a eu plusieurs fois l'occasion de chroniquer un peu Nia Jax et Tamina, et quand même, que ça soit avec Bad Karma, avec Raphaël, on faisait à chaque fois le même constat que c'était vraiment très mauvais dans le ring avec Tamina, hein, que l'âge ne l'a pas bonifié. Et puis Nia Jax, elle botche beaucoup. Nia Jax, elle a perdu beaucoup de crédibilité ces derniers temps. Si tu veux, j'aurais aimé même presque le match, ce petit paquet, qu'il arrive un peu plus vite, ça aurait été même mieux, quoi. Tu vois, qu'ils auraient pu raccourcir de 3-4 minutes ce combat, faire un final un peu surprenant, puisque au final, puisque les Sacha et Bayley se sont pas du tout impliquées dans le segment de la fin. Elles étaient sur le stage et elles se sont pas du tout impliquées. Et donc, du coup, quand les Heels ont attaqué Beth Phoenix, alors déjà, comme tu l'as dit, cet échange de regards qui a duré 3 plombes. Et le temps que ça s'y mette, finalement, d'ailleurs, c'est Beth Phoenix.
Ça aurait dû être déjà un, ça aurait dû être Nia Jax qui confronte Beth
Oui,
Phoenix et
voilà,
pas
ouais, pourquoi,
Tamina.
pourquoi Tamina? Pourquoi Tamina? Et du coup, on se retrouve avec cette attaque, voilà, de Beth Phoenix, et puis après Natalia qui vient sauver sa copine. Bon, écoute, ouais, c'était la première défense du Tag Team Division féminin. J'espère qu'il y en aura des meilleures à suivre, quoi. Parce que celle-là, bon, je pense qu'on va leur mettre peut-être d'autres équipes dans les pattes, ça sera pas plus mal. Là, parce que il va y avoir une feud, ils vont reformer Bess et Natalia pour attaquer les Heels, à terme, j'imagine. Enfin, bon, je sais pas ce qui va se passer dans tous les cas de figure, mais si tu veux, ce que je veux voir, moi, c'est Bayley et Sasha face à d'autres adversaires. Voilà, c'est ça que je veux voir. Et il y en a des
Bah
équipes
ouais.
féminines, il y a de quoi former des équipes féminines et tout, il y a de quoi faire. Et on peut très bien éloigner Nia Jax et Tamina de la title picture féminine de la Tag Team Division, quoi. Franchement, c'est ce qu'on a vu là au pay-per-view, là, voilà, ça aura fait partie des matchs très médiocres de la soirée. Voilà. Les
Non mais c'est bien,
matchs et segments.
ils en ont quand même réussi à mettre ensemble probablement les deux filles qui siphonnent. Le talent des autres, quoi, en tirant par le bas, dire, enfin, Tamina et Nia Jax, bah, il n'y en a pas une qui va aider l'autre à être meilleure, quoi. Donc,
Ouais, et puis il n'y
forcément,
avait pas.
cette équipe, elle est médiocre. Et t'as raison, Nia Jax, j'ai l'impression qu'elle régresse. Ça fait genre 1 ou 2 ans qu'elle régresse. Enfin, comment c'est possible d'être de moins en moins bon à ce point-là? Ça, je sais pas.
De toute façon, à l'image du handicap match, ça a été le moment où il n'y avait pas d'ambiance dans le stade. Hein. Et ça, on le dit souvent, hein, mais quand il n'y a pas d'ambiance dans la salle, le catch, ça
Ouais,
peut
ça aide
devenir
pas.
terrible par moment, quoi. Et terrible pour ceux qui sont en train de performer, et terrible pour les téléspectateurs, quoi. Quand la salle n'est plus là, la salle,
Ouais.
ça a été un silence pendant tout le match et tout le segment. Voilà, Bayley et Sacha ont eu de la pop, mais la pop normale des face qui sont
Bah ouais,
champions,
c'est
là.
leur
C'est leur
pop par
pop par
défaut,
défaut.
toi, mais
Oui,
tu veux que ça
voilà.
aille. Enfin, tu veux qu'on autre chose, toi, tu veux que le match ça soit la folie, toi. Hein. Surtout première défense de titre, un hein, super team. Enfin, les filles, enfin Bailey et Banks, elles ont l'air totalement investies par ça. Tant mieux pour elle, parce que c'est vrai que enfin, Bailey et Banks, moi j'ai un petit peu abandonné. Je trouve, enfin, voilà, elles sont. Enfin, je suis assez déçu, toi, par ce qu'elles parviennent à faire, toi. Je trouve que t'as l'impression que ça fait 3 ou 4 ans qu'elles sont là et qu'elles ont toujours pas, elles sont toujours pas arrivées à grandir, qui sont encore des ados, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des ados qui
Ouais.
sont encore dans un monde d'adultes. Mais très bien, on leur a donné ce titre-là. Elles se sont battues pour relancer pour lancer ce titre tag team féminin. Ok, mais dans ce cas-là, aidez-les quoi aussi en leur mettant vraiment des confrontations et des... On a juste besoin de matchs pour l'instant. On n'a pas besoin de storyline autour de ces titres-là. Et là, on est en train de nous rajouter des angles, des angles, des storylines. Il n'y a pas besoin de ça. On veut juste des belles confrontations. Là, il faut faire du showcase avec ce titre. Il faut le montrer, toi. Il faut le montrer. Et là,
Ouais,
on ne le montre pas et les gens s'en foutent. Donc,
c'est
c'est
un
assez
titre.
contre-productif.
C'est comme le Cruiserweight, en fait, c'est des titres jeunes. Et du coup, c'est
Ouais.
des titres qu'il faut mettre en avant par des matchs et avec des bonnes oppositions sportives. Ça peut
Voilà.
paraître bizarre de dire ça en catch, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ce titre, pour le mettre en valeur, dans un premier temps, il n'y a pas besoin de storyline énorme autour. C'est justement sa nouveauté, sa fraîcheur qui devrait entraîner vers plein de combats et plein de choses. Et en plus, Sacha et Bayley, elles ont toujours dit qu'elles étaient prêtes à le défendre partout.
C'est ça, ce que j'allais dire. En fait, il y a déjà la storyline, enfin l'angle qui est, comme tu le dis, des championnes qui vont faire la tournée de toutes les. De la WWE pour aller se frotter à qui voudra, quoi. Donc,
Voilà, ouais, donc
faites ça, quoi.
c'est ouais, voilà, faites ça. Et puis voilà, et puis il y a autre chose, je considère qu'il y a autre chose dans le roster féminin que Tamina et Naya pour faire briller ce titre. Donc si
Ouais,
tu veux, voilà. Donc
effectivement.
c'était un mauvais match, c'était le segment à la fin, je crois que le truc de Beth Phoenix, je crois, on s'en foutait tous un peu, hein, la réalité c'est un peu ça.
Oui,
Ça,
c'est
ça,
ça.
la réalité c'est qu'en fait tout le monde s'en foutait et on s'est dit bah, vivement qu'on passe à autre chose, quoi. Et heureusement, on est passé à autre chose.
Ouais, on est passé à autre chose, on est passé à Daniel Bryan qui venait défendre son titre face à Kevin Owens. Et là encore, on a eu une nouveauté. Visiblement, c'est Vince McMahon qui l'a annoncé.
Non, c'est
C'est
Mike
assez
Rome.
bizarre. Qui a annoncé que.
C'est
Qui a
Mike. C'est
décidé que
Ma...
ça
En fait,
devenait un
ça
triple threat
commence.
match?
En fait, ça commence. Mike Rome, il prend le micro, il annonce le WWE Championship et il annonce un triple threat match direct. Voilà. Il y a pas d'annonce au préalable.
Il n'y a pas eu sur un
Non,
truc
non,
genre
non,
le
non,
site
non, 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 il y a rien du
www.com
tout, il y a rien du tout, il y a rien du tout. C'est Mike Rome, ça part de Mike Rome directement.
Ok, chelou. Bon bah voilà. Si vous savez pourquoi, si vous avez la réponse parce que vous suivez le compte Twitter de je sais pas qui là, qui là s'est traîné ses oreilles ou vous passez beaucoup de temps sur le site officiel de la WWE, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. S'il y a une backstory, une raison qui justifie. Donc ce triple threat, comme tu l'as dit, et à ce moment-là, bah, la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle hurle? Kofi, 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 Kofi. Mais sauf que c'est pas Kofi, Kofi, Kofi qui arrive, c'est Ali, Ali, Ali. Mustapha Ali qui revient pour
Alors,
ce match.
c'est pas. En fait, si tu
Huitième.
veux, le truc, c'est que l'entrée, c'est pas exactement comme ça que c'est. L'entrée, c'est Kevin Owens qui rentre le premier. Derrière, c'est le champion de la planète qui débarque, quoi. Et
Oui.
c'est seulement en troisième que Ali arrive, quoi. Et
Ouais, bien sûr, oui.
au moment des présentations, la foule chante quand même We Want Coffee, quoi. La
Ouais, c'est ça.
foule chante. Et quand ils se retrouvent les trois sur le ring, au moment de la présentation des catcheurs, il se passe un truc quand même assez incroyable, c'est que les trois sont bouh! Parce que même quand
Ouais.
ça part sur Mustapha Ali qui est un face, et Kevin
Ah, c'est
Owens qui est
dur.
un tweener en fait maintenant, hein,
C'est un tweener, ouais.
c'est un tweener hein, Kevin Owens. Et Mustapha Ali, on s'attend quand même à une petite pop, et c'est même pas une petite pop qu'il a, c'est carrément il a droit à du bouh au début du match. Ça c'était quand même le truc dans le début du match qui était quand même assez incroyable quoi.
Ouais, bon, alors après, ne... on n'est pas étonné quand même. Enfin, clairement,
Non, non, on n'est
on
pas
l'a envoyé
étonné,
à l'abattoir, Mustapha
mais
Ali, hein,
ouais, on
en le faisant
est.
prendre le fameux spot 30 du Royal Rumble de Rey Mysterio, quoi.
Ouais,
C'est
un petit peu, ça fait un petit peu ça,
exactement ça. C'est on
ouais.
envoie un
Ouais.
top babyface à la place. Enfin, un top babyface, ouais, un top babyface, parce que c'est comme ça qu'il est booké quand même depuis le début, et la foule embarquait plutôt bien avec lui au
Ouais,
début,
ça marchait bien, hein.
remplacé. Le vrai top babyface que la foule veut. Donc évidemment que le mec s'est pris un saut de merde sur la gueule en arrivant par la foule, quoi. Donc sa mission à Mustapha Ali et à ses deux compagnons, c'est de retourner la foule et écoute, le match commence, le match s'enchaîne, Et ma foi, ils y arrivent. Ils y arrivent parce que Mustapha Ali, c'est pas n'importe qui. C'est un mec complètement dingue qui fait des suicides de rêve, qui saute dans tous les sens. Kevin Owens, c'est pareil. Comme tu le dis maintenant, c'est un tweener. Donc il tape Daniel Bryan, il tape Mustapha Ali, place ses cannonballs à droite, à gauche. Bryan, c'est un gros connard. Du coup, bah, il agit comme un gros connard. En plus, il a son acolyte qui est là pour faire un petit peu le surveillant général. Mustapha Ali, voilà, qui bondit dans tous les sens. Et tout ça s'enchaîne dans un gros gros match où justement ils arrivent quand même à retourner la foule. C'était plutôt bien. Ils sont plutôt bien démerdés. Mustapha Ali place un DDT sur Daniel Bryan en ringside. Kevin Owens place la power bomb sur l'éperon sur Mustapha Ali qui est complètement bah, qui se prend un énorme coup. Rowan, qu'est-ce qu'il fait? Bah, hop, il prend Ali et il le balance sur le ring pour l'offrir à Daniel Bryan. Et l'incroyable se produit. À ce moment-là, on pense que c'est un peu terminé, mais Mustafi kick out. Les deux se mettent sur la tronche. Et là, mamma mia, le finish quand même était incroyable, puisque Daniel Bryan place son running knee quoi, sur Mustafa Ali, qui était 2 mètres au-dessus du sol, en sautant du turnbuckle. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Daniel Bryan conserve son titre. Alors voilà, là, il y avait une mission à remplir. C'était une fois de plus, la WWE s'est mis des bâtons dans les roues dans ce match-là, en mettant Mustapha Ali. On peut d'ailleurs se poser la question, on va parler du match, mais on pourra aussi se poser la question de pourquoi avoir remis Mustapha Ali ce soir dans ce match-là. Mais ils ont quand même réussi à renverser la foule, ce qui n'était pas forcément évident, vu que bah, tout le monde voulait Kofi Kingston. Qu'est-ce que
Ouais.
tu as pensé de ce match?
Bon gros match. Bon gros match. Du coup, bah, Mustapha Ali, finalement, il revient de blessure. Il reprend son spot quelque part. Puisqu'il était prévu à la base. Puisque malgré tout, tout le booking de Kofi découle de l'absence de Mustapha Ali. Hein, c'est un peu tout le sel de cette affaire aussi. Et puis finalement, bah, comme je l'ai dit au départ, ça a commencé par des boos. Et puis, comme fait très souvent Mustapha Ali, il a retourné le public. Les trois, ils ont fait un excellent match, quoi. Tout un tas de spots dans tous les sens, du kick, des cannonballs. On a eu la totale, hein, les Spanish Fly, on a eu la totale 450 sur les prones. Enfin, un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Hein. Et puis le Brian, il est vicelard comme je l'adore, là. S'il y a vraiment un catcheur à l'ère moderne qui sait adapter son catch selon s'il est heel ou selon s'il est face, c'est bien Daniel Bryan, quoi. Et vraiment, c'est ce gars, et pourtant, même s'il a perdu physiquement par rapport à ce qu'il était à sa grande époque de 2014 et tout ça, on est en 2019 et Bryan, il fait un travail incroyable. Et moi, je tenais à dire, comme j'ai rarement l'occasion de parler du roster de SmackDown, c'est une des premières fois, mais pour le coup, pour moi, Daniel Bryan, il est face en fait. C'est un défenseur de la planète, donc je supporte Daniel Bryan. J'ai vu dans les travées des salles américaines ces dernières semaines des panneaux avec marqué des pancartes avec marqué Planète Sucks, quoi, je veux dire, en réaction à Daniel Bryan, champion du monde, champion de la planète. Quand je vois ça, je suis. Chez moi, ça
Et tu
déclenche tout
sais
un tas
bien,
de
mon
trucs
bon
au
Chris,
niveau
le
des
problème,
neurones,
c'est
que
pas
tu
le
vois.
message qu'il porte, c'est la manière dont il le porte. Tu vas pas découvrir ça quand même. Ça reste un gros connard qui donne des leçons.
J'en suis totalement conscient, si tu veux, quoi. J'en suis totalement conscient, mais c'est.
Mais
Si
ouais,
tu veux,
c'est sûr que
mais
bah, ce
j'adore.
qu'il dit, c'est pas faux, mais c'est un gros
J'adore
connard, du coup,
tout cet
faut détester.
antagonisme. J'adore tout cet antagonisme autour de ce titre et de comment ça a été transformé, le champion de la planète, le relooking de la ceinture, le comportement incroyable de Daniel Bryan depuis des semaines avec des promos complètement phénoménales où il a traversé les travées à SmackDown au micro. Enfin, je veux dire, il débite des promos, le Daniel Bryan, quand même, quoi. Des fois, tu te dis, mais putain, mais ouais, ok, respect, Daniel, quoi.
Ouais,
Et dans le
le mec,
ring.
tu le laisses 3 heures, il te fait une promo, y a pas de
Ouais,
problème,
ouais.
hein.
Et dans le ring, il reste hyper solide, quoi. Et il adapte, surtout, c'est ça, c'est sa force de catcheur, de lutteur professionnel. C'est qu'il adapte le ring à sa condition. Et là, il est heel, donc il a adapté son moveset. Et il est incroyable. Il est incroyable. Il encaisse hein, aussi. Hein. On peut en parler des heures aussi de ça, mais dans quel état il a la poitrine à la fin du
Les
combat?
super kicks qui s'est pris,
Ah
et
là
effectivement, sa
là!
poète, son poitrail qui vire au rouge
Ah ouais, non mais
assez
c'est.
rapidement,
Il se
c'est
sacrifie, hein. Il se
impressionnant.
sacrifie, ce garçon. C'est clairement. Ça a été un combat superbe. Franchement, voilà, Owens, il réussit à coller une pop-up powerbomb à Ali dans le coin, en plus, une sale vicieuse là, comme il aime les faire là. Mais
À ce qu'il avait fait à l'époque
sur
Sami
Zayn.
Zayn, effectivement.
Mais Rowan le
C'était
rattrape en fait à ce
un petit
moment-là.
peu le...
Et Rowan, il le balance dans la zone de la cloche ou un truc comme ça, quoi. Mais
Ouais.
le final est complètement dingue, quoi. Ils sont tous impliqués, quoi. Les quatre sont impliqués. Rowan est là, ringside, tout le monde. Ali fait un near fall de fou. Ça se termine dans la folie, quoi. Et Kofi est toujours. Par contre, ça, c'est un des trucs dans ce match, c'est que Kofi, quand même, à la fin, il réapparaît par le public qui sent que de toute façon Bryan va gagner, quoi, et donc du coup qui fait repartir le chant Kofi, quoi. Et finalement, bon bah voilà, Bryan porte son running knee là, en folie, là, à 2 mètres de hauteur, là, truc de fou. Et puis il gagne, il retains, et voilà, et c'est parfait. Voilà un match et une conclusion pour moi parfaite. Voilà encore un très bon match dans ce Fastlane. On a eu des trucs,
Ouais.
encore une fois, on revient là-dessus, mais voilà, on a alterné le chaud et le froid, on a eu des super combats et puis des combats très mauvais, médiocres. Voilà.
Mais à la sortie de ce match-là, moi j'ai une question pour toi. Quel enseignement on peut tirer? Enfin, pas vu Raw, on parlera pas de Raw, on parle pas de SmackDown, on ne sait pas ce qui s'est passé, on va dire. D'ailleurs, moi c'est le cas, mais peu importe. Quelle est l'idée? Est-ce que le fait de refaire Mustafa Ali, ok, pour le match, c'était bien, parce que le mec a produit un super match. Mais est-ce que c'était vraiment le bon move de faire revenir Mustafa Ali dans cette histoire qui est déjà un petit peu compliquée? On en a parlé avec Kofi Kingston avant. Enfin, qu'est-ce qu'on nous prépare là maintenant pour la suite, quoi? Parce que clairement, c'est un peu peut-être à la manière des filles avec Becky Lynch, Charlotte Flair. Tout ça paraît bien compliqué pour quelque chose qui semblait pourtant assez évident à la vue de ce qui, enfin, pour WrestleMania. Enfin, moi, clairement, Mustafa Ali, je l'aurais vraiment pas fait revenir tout de suite. Visiblement, ils comptent beaucoup sur eux, comme tu l'as dit. Kofi Kingston, enfin, pour moi, c'est clair, toi. Kofi Kingston avait vraiment pris le spot de Mustafa Ali, mais jusqu'à aujourd'hui, toi, ça, y a plus de doute. Faire revenir Mustafa Ali, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on va vraiment se passer de Kofi Kingston d'une façon ou d'une autre jusqu'à WrestleMania? Je sais pas, c'est
Ah,
assez étrange. Je sais pas quel message on essaye de nous envoyer. Là, les cartes sont vraiment brouillées pour moi.
ta question est longue. Après, alors c'est compliqué parce que j'ai vu Raw et SmackDown, parce qu'on enregistre aujourd'hui,
Ah,
on est
d'accord.
jeudi, et j'ai vu Raw et SmackDown, donc j'ai quelques éléments de réponse par rapport à certaines choses. Mais à chaud, si je te répondais juste par rapport à ce que j'ai pensé à chaud à la fin du match du pay-per-view, moi, si tu veux, j'étais satisfait du fait qu'ils avaient délivré la marchandise. Que Ali faisait un bon retour, il a été blessé, il revient dans un match, il a un title shot direct et il fait un bon match. Finalement, il est revenu dans sa place dans le booking. Visiblement, les officiels, ils ont confiance en lui. Sur le coup, je me suis dit, bon, ils vont articuler un truc avec Ali et Kofi. Au départ, moi, sur le coup, je me suis dit, ah, on va avoir droit à des matchs tag team à SmackDown avec Ali et Kofi face à, je sais pas moi, Owens, Bryan, ou tu vois, des choses comme ça. On va avoir une configuration tag team, quoi. Et puis au bout d'un moment, peut-être qu'ils préparaient un mois pour finalement une feud entre Kofi et entre Ali, mais ça aurait pas de sens parce que c'est tous les deux des face. Et je pense que c'est pas ça que le public veut voir, quoi.
Non.
Donc je Ali, si tu veux, moi je suis sur le coup du pay-per-view, ça m'a pas dérangé parce que je trouvais qu'il reprenait sa place, qu'on peut lui faire confiance dans le ring et que finalement j'ai pas réfléchi plus loin. Effectivement, après, là, toi, tu vois, c'est normal, tu y réfléchis parce que tu viens de voir le pay-per-view et qu'il s'est passé déjà les
Bah oui, je suis
bookings.
là, je me pose beaucoup
Oui,
de
voilà, ouais.
questions parce que
Donc,
ce n'est pas assez clair,
tu
mais
auras certaines
on
réponses
verra. Après, il y a une
dans la
grosse
review.
prestation. Ils ont fait un énorme match,
Ouais,
ça c'est
ouais,
sûr.
ouais, ouais. Ça,
Donc,
c'était bien. Et en pay-per-view, on est là, c'est l'instant présent qui compte, j'ai envie de te dire, tu vois. Et finalement, heureusement, si le match avait pas été terrible, là, on aurait pu se dire, ah merde, là, c'est quoi ce booking et tout et tout. Mais là, on a eu un bon match de cage, donc du coup, on se dit, bon, bah, ça passe, quoi. Ali, il est là et il est présent et ce qu'il fait, c'est du bon. Donc, si tu
ouais.
veux,
Ouais.
ça a pas gâché
Ah
le
non.
c'était quand même un match pour le titre. Et au final, c'était un bon match pour le titre.
Ouais. Bon, allez, je parlais justement de Becky Lynch et Charlotte Flair. Les deux filles ce soir se retrouvent avec On va pas repasser des heures, hein, sur tout ce qui s'est passé
Ouais,
semaine dernière
si on
et
résume la
tout,
feud là.
totalement alambiqué que les scénaristes Vince McMahon ont sorti de leur cerveau complètement tordu pour arriver à un truc tellement facile à booker. Becky Lynch, Charlotte Flair, avec comme stipulation, comme enjeu, si Becky Lynch gagne, alors ça me fait toujours rire les stipulations qui sont sur trois lignes. Si Becky Lynch gagne, elle rejoint Ronda Rousey et Charlotte dans leur match pour le titre à WrestleMania. Becky Lynch arrive avec ses béquilles, je sais pas, il y a un problème de rééducation, c'est pas possible post-opératoire là pour Becky Lynch. Ça fait 2 mois qu'elle a ses béquilles. Il faudrait peut-être temps quand même que. J'espère vraiment que elle va aller. Elle n'aura plus besoin de ses béquilles, elle va pas aller à New York avec ses béquilles parce que ça devient assez ridicule. Donc, Charlotte, Becky. Charlotte tabasse Becky, mais le match finalement n'ira pas très loin puisque Ronda Rousey arrive. Tranquillement, presque, vraiment, genre, bonjour, salut, j'arrive. Elle met un petit coup de genou à Becky Lynch, ça entraîne la disqualification. Victoire donc de Becky Lynch par DQ. Becky Lynch, du coup, va rejoindre à ce moment-là officiellement la title picture à WrestleMania. Ronda Rousey est comme ça sur le ring, elle fait avec son petit sourire, genre, bon bah voilà, vous voyez, c'était si simple. Je suis comme vous, les smart, j'utilise les règles à mon avantage, hein, c'était tout bête. Voilà, je voulais que Becky Lynch soit dans ce match, alors je suis venu la disqualifier. Et puis, enfin, je suis venu l'attaquer pour disqualifier Charlotte. Et puis, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Becky Lynch est contente, mais celui qui est pas content à ce moment-là, c'est moi. Parce que un top babyface underdog qui gagne sans avoir combattu, sans avoir presque mérité sa place, on va dire ça, grâce à l'intervention d'un heel qui vient l'aider, c'est un petit peu étrange, non?
Ouais, et ben écoute, c'était un combat un peu bizarre. Déjà, l'histoire de Becky, t'as commencé en fait par un des trucs qui m'emmerde le plus, c'est l'histoire du genou. Voilà quoi, je me balade avec ma béquille sans arrêt, mais que font l'équipe que fait l'équipe médicale à la WWE? Si elle veut, je connais une très bonne adresse à Capbreton, on a un centre de rééducation spécialisé en France qui est très très bon, je pense qu'on pourra lui réparer son genou. Cap-Breton, c'est parfait, c'est la côte atlantique et tout ça, un air serein et vivifiant, c'est parfait.
Ouais, qui va pas la dépayser, ça peut-être lui rappeler son Irlande natale en
Voilà,
plus, donc
exactement,
on est pas mal là,
exactement.
c'est une très bonne idée, ouais, envoie-lui
Voilà,
ça.
Cap-Breton, c'est pour toi, Becky. Et après, si tu veux, le combat donc a été moyen. Et alors l'arrivée de Ronda, alors la manière qu'elle a de courir sur la rampe, c'est assez extraordinaire. Si jamais tu as l'occasion, refais-toi le. Sur un Twitter, il y a un petit gif sur la course de Ronda pour atterrir sur le ring. C'est assez épique. Et quand elle arrive et donc elle frappe Becky au sol, voilà, et donc elle la qualifie d'office. J'ai envie de te dire, mais what the fuck, what the fuck. C'est-à-dire que toi, t'es championne, tu peux avoir un match en 1 contre 1 à WrestleMania ou avoir un match en triple menace si tu choisis de disqualifier celle qui te fait faire un triple menace. Donc tu as une chance sur 3 de gagner le titre dans un triple menace, une chance sur 2 dans un contre 1. Donc déjà, ça, c'est une première réflexion. On va dire qu'à la rigueur, c'est une réflexion sportive, ça, tu vois. Mais
Ouais.
après, il y a aussi le fait que pour moi, enfin. J'arrive pas à me faire à l'idée, hein. Pour moi, Becky, elle a gagné le Rumble, donc de toute façon, obligatoirement, elle est dans le main event, tu vois. Et ça, on a beau essayer de me le faire avaler dans la gorge de par A plus
Ça passe
B,
pas.
ça passe pas. Moi, j'y arrive pas. Pour moi, Becky, cette histoire de match pour se joindre au championnat féminin, ça n'a aucun sens puisque Becky, elle a gagné sa place dans le Royal Rumble. Point barre. Period. Tu vois, c'est un truc pour moi, c'est un non-sens dans cette feud. Alors que je l'ai dit à Raw, cette feud, je trouve cette feud géniale, qui dure sur des mois et des mois, où il y a un vrai truc travaillé depuis des mois et des mois et tout ça. Mais si tu veux, là, c'est en train de terminer en autre boudin dans cette Road to WrestleMania, quoi. C'est un peu
On est
dommage.
tu sais quoi, on est juste pressé d'arriver à ce putain de
Ouais,
match à
ouais, ouais,
WrestleMania, on veut
ouais,
juste ça maintenant.
ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, on est arrivé à un point là où là, ça y est, c'est bon, on a compris là. Elle pourrait se contenter de faire quelques promos micro, voilà, tu vois,
Mais
sur les
oui.
weekly, et puis qu'on attende le match maintenant. Là, je serais d'accord. Mais parce que pour voir des segments comme on a vu à Fastlane, eh ben franchement, on aurait pu s'en passer. Tu vois,
Non, ça fait juste ça crée juste de la frustration et limite, enfin ça fait du mal à la rivalité, quoi.
Ouais, et puis c'est même la frustration. De toute façon, c'est même pas de la frustration. C'est tu te dis, oh, c'était pourri comme segment. Tu vois, t'es pas dedans, quoi. Tu te dis pas. Tu te dis, mais merde, mais ils ont écrit ça avec les pieds ou quoi? C'était, tu vois, je sais pas, c'est vraiment gâché parce qu'il y a un tel potentiel, il y a un tel potentiel dans cette feu, ils avaient moyen de faire des trucs beaucoup plus sympas. Hein, on n'est plus qu'à un mois du match. Ce match, il est malgré tout grave attendu par le WWE Universe, quoi. Donc, écoute, moi je dis, tout était simple finalement. Pourquoi faire
En
des
fait,
trucs aussi grands?
ils sont plantés. Là où ils sont plantés, c'est qu'ils ont voulu créer un angle de. Et alors, c'était un angle, mais là où ils sont plantés, c'est d'avoir fait durer, surtout d'avoir de se dire que c'est ça vraiment que les gens veulent. Enfin, là, on veut sortir de cet angle. Bon, ça y est, on en sort, heureusement. L'angle, c'est plus genre est-ce que Becky Lynch va participer ou non à WrestleMania. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les mecs, les filles se détestent et se mettent sur la tronche à coups de promo et à coups de baston, etc. En fait, ils l'ont fait à l'envers. Ça, on l'a eu avant. On l'a eu avant le fait qu'elles se mettent sur la gueule dans tous les sens. Et c'est ce qui a mené un peu à cette étrange scénarisation où chaque semaine, on avait un nouvel angle qui venait. Intellectualiser une rivalité qui était devenue physique, organique entre les trois. Et on a voulu faire des trucs à base d'autorité, voilà, t'es plus dans la title picture, etc. Et du coup, enfin, tu le montes à l'envers, quoi. Maintenant, ce qu'on veut, c'est, voilà, pendant les 4 prochaines semaines, que les filles se fassent, comme tu l'as dit, des grosses promos, qu'elles se mettent sur la tronche, ou alors on veut juste pas les voir et on veut juste le match, quoi. Mais.
Ouais, voilà, elles se détestent, c'est acté, c'est bon,
Ah
et on
oui.
n'a plus besoin de les voir dans le ring ensemble, tu vois, ou alors quand on les voit ensemble, c'est pour un face-off, et voilà, pour se
Ouais.
toiser du regard, tu vois, en mode,
Le ultimate
ouais,
face-off
voilà,
WrestleMania, quoi.
combat de boxe, tu vois, voilà, c'est ça qu'on veut voir. On n'a plus besoin de les voir dans le ring maintenant, quoi. Surtout que j'ai envie de te dire que Charlotte et Becky, on les a déjà vues souvent l'une face à l'autre, donc si tu veux, on n'a plus besoin de les voir dans... Il reste un mois, moi je suis booker, je me dis... Là, on leur écrit des promos aux filles pendant le mois qui vient là. Et voilà,
Bien
elles vont
sûr.
chauffer SmackDown, elles vont chauffer Raw, et on fait un ou deux face-offs dans les deux go-home shows, quoi. Tu vois, le dernier Raw, le dernier SmackDown avant WrestleMania, un gros face-off avec les trois. Et en plus, si tu veux, tout s'écrit tellement de lui-même. Dans ce combat-là, la WWE, elle a les trois meilleurs avec elle. Elle a la meilleure athlète américaine de combat des 10 dernières années. Elle a la meilleure catcheuse avec Charlotte Flair. Et elle a la catcheuse avec la plus grande hype des 5 dernières années, en l'occurrence Becky Lynch. Tout
Ouais.
s'écrit de lui-même, tu vois, tout cool. Tout cool. Et malheureusement, on arrive dans un fast lane avec un segment et un match comme on nous a proposé. Et bah, quand tu suis le catch, que t'aimes ça, que tu suis ça de manière assidue et tout ça, t'es déçu. Après, évidemment, je me mets pas peut-être assez à la place de la personne qui regarde ça de manière très occasionnelle
Oh,
et qui,
évidemment, ouais.
comment elle analyse. Je serais curieux de savoir quelqu'un qui voit ça comme ça, qui voit juste les pay-per-view, qui voit, tu vois.
Peut-être qu'elle n'analyse pas du tout, hein, tu sais.
Voilà,
Nous, on
ouais.
analyse, mais.
Oui, nous, on analyse, ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'effectivement, derrière ça, peut-être que le public plus occasionnel, lui, il a besoin de voir ces rapports-là comme ça. Mais bon, pour des suiveurs assidus comme nous, c'est clair que quelque part, ça n'a pas de sens et qu'il y aurait des choses plus simples à faire et qui montreraient encore plus la hype dans ce combat, quoi. Il n'y a pas besoin de plus que ça dans ce combat. Il y a trois ingrédients majeurs et bah, des fois, on a l'impression qu'ils ne savent pas comment s'en servir. C'est un peu
C'est
dommage.
devenu, ça c'est devenu une savonnette. C'est devenu un petit savon qui glisse entre leurs mains. Ils savent plus quoi en faire. Ils n'arrivent plus à le garder. Alors que à la base c'était un petit savon tranquille qui était bien brut et tout, bien posé
Ouais,
là.
ils savent
Et
peut-être
je
pas.
sais pas, ils ont tellement savonné avec que maintenant ça glisse de partout et ils galèrent quoi jusqu'à WrestleMania. Donc laissez là pour poser un petit peu. Et puis c'est bon, vous nous avez déjà acheté là. On va le regarder votre match. Hein. On
Ouais,
veut que
oui.
ce soit le main event. C'est pas de problème,
Bien
pas de
sûr, mais
problème.
ouais, je crois qu'il
En tout cas,
y a aucune
ce
contestation
soir,
sur cette chose-là.
ouais. Ce soir-là, c'était pas le main event. Eh non,
Et non,
c'était
et
pas le main
non.
event. Le vrai main event, c'était le Shield. Cera, Hotel. Eh oui, voilà, c'est le premier gros match, le premier match de Roman Reigns. Roman Reigns de retour. Et on a reformé pour l'occasion, avec plus ou moins d'intelligence, mais on l'a fait. Seth Rollins et Dean Ambrose qui affrontent ce soir la faction des gros costauds qui n'ont pas de programme. Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre. Alors, j'étais assez étonné. J'ai d'ailleurs arrêté le pay-per-view à ce moment-là. J'ai rembobiné, si je puis dire. Je suis un peu génération VHS, mais voilà, j'ai rembobiné. En fait, tu as Michael Cole qui a fait référence au contrat de Dean Ambrose. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont il parlait dans les weekly à Arrow.
Non, ça c'est apparu à Fastlane, ça.
Ouais. Genre, voilà, Dean Ambrose n'a pas re-signé. On ne dit pas qu'il part, on dit qu'il n'a toujours pas re-signé son contrat à la WWE. Et du coup, bah, on nous présente ça comme la potentielle. C'est même, on va dire comme ça, à ce moment-là, c'est la dernière réunion du Shield, le dernier match du Shield que vous verrez à la télévision. Et c'est ça la dramaturgie, et c'est ça l'histoire, et c'est pour ça que c'est le main event, parce que c'est aussi en plus le retour de Roman Reigns. Donc ce soir, accrochez-vous, vous allez avoir ce qu'on peut appeler un match typique du Shield, parce qu'on aura tout eu, tous les spots, tous les enchaînements, évidemment la triple power bomb, qui d'ailleurs terminera. Le match, mais on a eu ça à travers les passages, à travers la table. C'est Drew McIntyre, hein, qui se retrouve passé en triple powerbomb à travers la table des commentateurs. On aura les enchaînements, des super enchaînements que j'ai trouvé, hein, de Spear et de Dirty Deeds. Seth Rollins à cœur tombe, Bobby Lashley sur une table. Ça s'est retrouvé évidemment dans les travées du stade, hein. Ça c'était typique, une signature du Shield, hein. Le match durait rarement, restait rarement entre les cordes, on allait souvent dans les travées, ce qui d'ailleurs a contribué à la popularité de ces gars-là, parce que, enfin, que les mecs allaient se battre au milieu des spectateurs, évidemment que la foule était en délire. Là ils l'ont fait et ça m'a fait très marrer, parce que quand ils se sont retrouvés, t'avais Seth Rollins, peut-être Dean Ambrose, ils se sont retrouvés à l'extérieur, là, à se battre avec deux autres, à l'extérieur, au milieu des chaises, là, des spectateurs. Et je me suis dit, oh, vu la configuration de ce match, je verrais bien un petit Seth Rollins sauter là, de 10 mètres de haut dans le tas. Et paf, 5 secondes plus tard, c'est arrivé. Seth Rollins qui nous a fait son saut de l'ange, là, comme il y a quelques années. Hein, c'était face à Evolution. Il nous avait sorti ce saut incroyable, là, sorti de nulle part. Et bon, bah voilà, hein, les méchants font ce qu'ils peuvent. On a un Drew McIntyre qui porte un peu son équipe. Baron Corbin qui a bien encaissé aussi, parce qu'à la fin, il se prend quand même un petit peu tout sur la tronche et kick out pas mal de fois. Il nous fait notamment un magnifique Deep Six et aussi. Comment s'appelle son finisher là, à Baron Corbin? Qui est de
End of days.
TNA, pour un compte de deux là, c'était assez magnifique, mais à la fin, voilà, hein, la Shield Bomb sur Corbin pour la victoire ultime de ce peut-être dernier match de ce qui est probablement, c'est même certain, la plus grande équipe de catch à la WWE de ces 10 dernières années. Le Shield enfin réuni, et surtout, les mecs se sont éclatés, ça se voyait, ça se lisait sur leur visage. Ils étaient heureux d'être là, c'était communicatif. Et à la fin, le petit fist pump, et les mecs étaient juste fous de joie. Il y avait beaucoup d'émotions, hein, dans ce match. Et à la fin, du coup, bah, je sais pas toi, mais moi, tout le mal que je pense de ce qu'ils ont fait du Shield ces dernières années, ça m'a fait juste plaisir de voir ces trois types-là se retrouver ensemble pour un dernier gros match, quoi.
Yes, bah écoute, c'était un. Alors, bon, sa place sur la carte, c'était le, c'était le, c'était, c'était le main event. Je t'avoue que pour moi, ça n'aurait jamais dû être le main event. Mais bon, je pense que ce match-là aurait dû être à la place en fait du WWE Championship, et que ça aurait dû être le WWE Championship avec Daniel Bryan qui aurait dû être dans le main event, déjà. Moi, ça, c'est mon avis à moi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aurais placé en avant-avant-dernier le match du Shield. J'aurais placé ensuite Becky et Charlotte. Et ensuite, j'aurais mis en main event Brian Owens versus Ali. Même si on ne savait pas que c'était Ali à ce moment-là qui allait avoir le troisième spot dans ce match-là. Voilà, ça, c'est pour évacuer l'histoire de la place dans la carte. Ensuite, c'était un signature match du Shield. Ça, c'était génialissime. Moi, j'ai adoré, quoi. Voilà, là, on a eu droit, comme tu l'as dit, t'as tout expliqué. Voilà, on a eu droit à tous les big spots, big moments du Shield. Partout dans la salle, sur tout ce qui peut servir, ringside, la table des annonceurs, on a eu la totale, on a eu les triple power bomb, on a eu Reigns avec, on a eu aussi une entrée du Shield, voilà,
Ah
avec un
oui,
public de
rien que
Cleveland
ça.
qui était au taquet, chez taquet, chez taquet. Et puis du Shield, on en a eu un paquet pendant le match, quoi. Et donc, il y avait une ambiance de feu, comme j'adore, moi, voilà. Moi, le catch, c'est une des grandes raisons aussi qui me, voilà, c'est quand le public est dedans, et ben, tout de suite, hein, ça t'envoie du lourd sur ta télé, quoi. Et le Shield, voilà, c'est une équipe qui est capable de ça. Surtout face à trois Golgoth, face à trois monstres que sont Corbin, McIntyre, surtout McIntyre qui pour moi là est de la graine de Main Eventer là. Et puis un Bobby Lashley qui a échappé à un match d'Intercontinental, puisqu'il faut bien le signaler quand même, l'Intercontinental n'a pas eu le droit de citer à Fastlane.
Quoi?
Donc du coup, on nous a collé pas ce qu'il fallait. Alors, si tu veux, la WWE, elle a présenté, c'est The Shield Enter the Ring for the Very Last Time. Tu vois, voilà quoi. Donc ça nous a été annoncé à multiples raisons que le Shield, c'était la dernière fois qu'on les verrait, le dernier combat, le dernier match, que Ambrose allait s'en aller. Ils ont insisté lourdement sur le fait que Ambrose allait s'en aller. Ce qui fait que de plus en plus, je commence à penser à un work.
Oh, tu crois?
Oh là là, ça me paraît. Écoute, c'était vraiment étonnant. Hein. C'est pas dans les habitudes de la WWE, quand même, de parler de la fin de contrat d'un de ces catcheurs dans
Bah,
les
la
shows
dernière
en
fois
direct
qu'ils
à la
l'ont fait,
télé. Hein.
c'était un work, effectivement, avec CM Punk.
La dernière fois, oui, avec CM Punk, ouais. Voilà. Donc, si tu veux, je sais
Là, je sais
pas.
pas. Hein. Sur cette histoire, je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment un work? Ou est-ce que. Enfin, je me dis, si c'est vraiment le dernier match du Shield. Je comprends aussi pourquoi ils le justifient, ils l'expliquent en disant que bah voilà, il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui de toute façon est appelé à affronter Brock Lesnar, et puis le troisième il est de retour, voilà, son futur est devant lui. Bon, je comprends aussi pourquoi ils auraient pu en parler dans le cadre d'un vrai départ potentiel de Dean Ambrose. Donc là, moi je suis complètement perdu, je ne saurais vraiment pas te dire qu'est-ce qu'il y a un work ou pas, parce que pour moi, les deux sont possibles par rapport à ce qu'ils nous ont montré ce soir, tu
Ouais,
vois.
ouais, ouais. Mais bon, après, de toute façon, si tu veux, finalement, l'essentiel, c'est que dans l'instant présent, c'était le main event de Fastlane et que du
Ouais.
coup, on a eu un super gros match, quoi. Vraiment, vraiment, voilà, un énorme match de catch, encore une fois, quoi.
Ouais.
On en a eu quelques-uns quand même dans ce Fastlane, donc ça, c'est quand même un truc positif. Et du coup, bah, terminé avec le Shield, on était quand même quasi assuré de grosses qualités. Franchement, pour moi, dans l'équipe des heels, hein, c'est McIntyre, il éclabousse tout, quoi. Il est pour moi des trois, il est vraiment au-dessus du lot, McIntyre à l'heure actuelle, quoi. Je suis pas loin de penser qu'il est dans le top 3 des top heels de la WWE, Drew McIntyre. Et lui, il va être dans le main event quand Lesnar sera enfin parti et que enfin on
Bien
retournera
sûr.
sur un concept du titre universel vraiment. Avec des bonnes feuds, avec des suivis, avec des combats, avec des choses comme ça, je pense que McIntyre va clairement faire partie de cette troupe-là, de cette petite troupe-là. Il fait un énorme match hein, contre le Shield, hein. Il fait un énorme match, quoi. Et après, Corbin et Lashley sont pas en reste, hein, mais bon, je suis moins fan. Et puis vraiment, McIntyre, il dégage quelque chose, quoi. Que dégage pas, tu vois, enfin, à mon goût, hein, que ne dégage pas Lashley et Corbin, quoi. Surtout pas Corbin,
Mais
évidemment.
il
Corbin, c'est pire
transpire le
l'enfer.
charisme,
Ouais,
ce mec-là,
ce gars,
McIntyre.
il est.
Enfin, le
Puis il est
mec.
monstrueux physiquement, hein, physiquement, c'est. Enfin, je veux dire, Vince, il doit être en totale admiration quand il doit voir McIntyre traverser la Gorilla Position, quoi. Tu vois, c'est McIntyre, c'est le fantasme ultime
J'imagine
de Vince
tellement
quand
en
même,
train de
quoi.
l'observer, de ne pas en louper une seule goutte de transpiration de Drew McIntyre jusqu'à ce qu'il passe sous le petit rideau.
Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, et puis, McIntyre, c'est lui qui a les honneurs de la triple bombe sur la table des annonceurs. Tu vois, c'est lui que le Shield, il cherche à corps et à cri, qu'il cherche à complètement, comment dire, le
Éliminé,
rendre
ouais.
inoffensif, quoi. Parce que il
Ouais.
est clairement considéré comme le plus dangereux, quoi. Et finalement, et pourquoi je te dis ça? Parce que comment se termine le match, hein, le match, la foule, elle chante One More Time, elle demande encore une triple bombe, etc. Qui c'est qui termine? Ben, il termine avec Corbin, quoi. Et c'est
Ah
Corbin
bah
qui se prend la dernière
oui, il est
triple
là,
bombe
évidemment, il est
et
là
qui se
pour
prend
se
le
faire
pin
rouler dessus.
par. Qui, voilà, il se prend le DDT, enfin le Dirty Deeds, il se prend le super kick de Rollins, il se prend un Superman Punch, il se prend la totale, le coco Corbin, quoi.
Ouais,
Et
ça
après la
c'était
power bomb
super.
et derrière le pin de Reigns, et puis voilà, les chats sont bien, les chiens sont bien gardés.
Et du coup, c'est comme ça que c'est terminé ce Fastlane sur cette note assez épique, hein.
Ouais, tout à fait, ouais, il se termine bien, le pay-per-view se termine bien sur une belle image. Encore une fois, bon. Ce match aurait pu être un très beau main event de Raw, par exemple, si on est toujours dans l'éventualité qu'un Fastlane n'ait pas existé. Ça aurait été un excellent main event de Raw, un match comme ça. Et voir la victoire du Shield n'aura certainement pas été une surprise pour les pronostiqueurs, je pense. Et c'était bon, mais c'était bon, c'était terminé ce Fastlane, c'était un bon point pour finir ce pay-per-view.
Ouais, franchement, moi j'étais à la fin, j'étais vraiment. Enfin, j'étais super content, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très rare de terminer. Enfin, que j'ai fini de regarder un pay-per-view, c'est très rare où je me sens heureux, toi. Enfin, content, toi, genre, je suis excité et tout.
Tant mieux.
Et c'est pour ça que je leur reprocherais pas d'avoir mis ce match-là en main event, parce que ça fait du bien, de temps en temps, de terminer sur un truc où tu te poses pas de questions, et on se pose pas de questions avec ce main event, et à la fin, enfin, à moins d'être vraiment, de détester tout ce qui touche au Shield, je veux dire, il n'y a aucune raison de pas sortir de ce pay-per-view à la fin et de se sentir bien, enfin, genre, tu étais hyper positif, toi. Souvent, dans les pay-per-views, ce que je kiffe, c'est, bah, je vais devoir le chercher ailleurs que dans le main event, toi, où ça va se terminer sur une frustration, ou une victoire d'un heel qui, certes, est importante, mais voilà, t'es pas. Il n'y a pas l'euphorie, toi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super de se terminer sur cette belle image, quoi. Et les mecs étaient vraiment au taquet. Cette Rollins, il était tellement chaud qu'il a sorti des gros fuck,
Ouais, ouais, ouais,
genre
ouais. Il a
I'm
été d'ailleurs.
fucking je sais pas quoi, là. Il n'en pouvait plus, quoi.
Quand on offre du temps de cerveau disponible à la WWE, on est quand même bien content quand un pay-per-view se termine de manière assez positive et qu'on a
Ouais.
passé globalement un moment pas mal. C'était loin d'être le pay-per-view de l'année. C'est une évidence, mais voilà, c'est sympa de terminer sur une note positive et en se disant qu'il y a quand même eu quelques bons matchs. Et le main event, c'est hyper important dans la perception qu'on a d'un pay-per-view. Et clairement, ce
Évidemment.
main event était réussi. Le Shield, de toute façon, le Shield, c'est du solide, hein, c'est le clan des années 2010, quoi.
Et ça, là-dessus, il n'y a pas de doute, et on nous l'a bien rappelé ce soir.
Voilà.
Ben voilà, nous aussi, c'est le moment de terminer.
Un petit top note et flop?
Ah ben, évidemment, un petit top, un petit flop, et surtout, et également, une note. Alors, Chris, si tu veux bien nous partager tout ça, s'il te
C'est
plaît.
moi qui attaque? Alors, Chris
Vas-y.
attaque. Eh ben, la note, je vais mettre un 3.
Un 3.
Ouais, je vais mettre un 3. J'hésitais,
D'accord.
3, 3,25. J'aurais pu mettre un 4 si on avait eu plusieurs matchs de l'Akabi du titre US ou du Tag Team de Raw. D'ailleurs, un truc que j'ai pas signalé dans le truc de Tag Team de Raw, c'est qu'à Raw, on se plaint souvent du niveau de la Tag Team Division et que pour le coup, dans ce pay-per-view, ils nous ont livré un super combat.
Ouais.
Donc,
Ouais, ça se
ce qui est pas très bon en weekly, apparemment en pay-per-view, ils ont relevé la mire et clairement le tag team de Raw était vraiment un excellent combat. Alors je vais mettre un 3, écoute, ouais, parce que c'était pour moi un pay-per-view intermédiaire, qu'il y avait des petites fautes de goût au niveau de la du pla des places du placement dans la carte des matchs, que le handicap match sur Kofi n'avait rien à faire là, et qu'il y a eu en plus un ou deux matchs assez mauvais, en l'occurrence le match de Asuka et le match avec Sasha et Bayley, quoi. Donc, si tu veux, pour moi, ça peut pas, il pouvait pas atteindre un 4. Voilà, il aurait fallu, voilà, plusieurs matchs comme le titre US et le Tag Team Raw. Donc, je vais lui mettre un 3. Et après, en flop, je vais lui mettre. Bah, écoute, j'hésitais entre deux, trois trucs en flop, mais du coup, le flop, je vais quand même le mettre parce que ça c'est un truc qui me déçoit pas mal. Donc, je vais le mettre au match Asuka Mandy Rose parce que le match était mauvais, parce que je ne comprends pas ce qu'on fait avec Asuka. Et parce que c'était vraiment mauvais et que Asuka, je suis convaincu que c'est une workeuse de folie, quoi, et qu'il faut lui mettre quelqu'un de folie en face d'elle, et qu'elle ne peut que donner des bons matchs, et qu'on lui a filé un balai avec Mandy Rose à Fastlane. Et donc, du coup, ça, j'ai été très déçu par ce combat-là. Donc, je vais lui mettre mon flop. Et mon top. Mon top, je vais le donner. Ah, je vais le donner quand même au main event, je vais le donner au Shield, parce que si c'est effectivement la dernière fois qu'on les voit. Voilà, pour avoir suivi toute leur carrière depuis 2012, bah
C'est
voilà,
ça.
le Shield, c'était quand même, émotionnellement, c'était quand même quelque chose d'assez fort là. Et finalement, peu importe les adversaires, c'était le fait d'avoir Roman qui revient de maladie, Rollins qui est dans le main event de WrestleMania, Ambrose qui est sur le départ. Voilà, toutes les conditions étaient réunies, une foule de folie, un match de catch de folie, un final positif. Donc ouais, allez, mon top, donné au main event et donné au Shield.
Bravo monsieur. Eh ben écoute, moi concernant ma note, je donne un 3,75. En fait, tout m'a plu, sauf tout ce qui concernait les filles. Tout ce qui concernait les filles
Même
était
le
à
handicap
côté de la
match?
plaque,
Le handicap
ou
match aussi?
décevant, ou...
Le handicap match aussi, ça s'est passé pour toi?
Non, 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 non,
Je
je
veux
veux
pas
pas
dire.
dire... Non,
Non,
parce
parce
que
que c'est.
c'était...
Non,
Non,
parce que
c'était nul.
3,75, c'est une bonne note, hein?
Hein?
3,75, c'est une bonne note.
Bah oui, c'est 375 millions. Alors, c'est modéré par rapport. Toi, c'est pas genre. Je sais pas, c'est pas comptable, hein. C'est pas comptable. C'est à la sortie, à la fin, qu'est-ce que je ressors de ce pay-per-view? Qu'est-ce que je ressens? Donc, je veux dire, toutes les filles, c'était naze, mais ça n'avait pas non plus une, ça n'a pas tenu une importance énorme dans le pay-per-view et dans l'impression que j'ai ressentie, toi. Parce que. Donc, mon flop, c'est simple. Je le donne à la division féminine dans son ensemble, pour son œuvre. Parce qu'aussi bien pour les
Ah
matchs de
ouais.
championnat que pour le match tag team que
Ouais,
pour le
pas mal,
Charlotte
ouais.
Flair, ça n'avait aucun sens, c'était juste mauvais. Donc voilà, je dirais, au dernier pay-per-view à WrestleMania en pleine nouvelle ère de la division féminine, ça c'était clairement pas une bonne démonstration de ce que les filles savent ou peuvent faire à la WWE. Donc ça c'est quand même zéro. Par contre, alors effectivement, le truc avec Kofi Kingston c'était naze. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et mon top, parce que tout le reste était franchement excellent. Mon top, je suis comme toi, je suis obligé de le donner au main event du Shield parce que j'étais en fait surpris. Je voyais, tiens, le Shield, ils vont faire un match et tout. Enfin, toi, je sais pas, j'étais pas hyper chaud, toi. J'étais pas hyper chaud. Et en fait, ils le mettent en plus sur le main event, donc j'étais un peu comme toi. J'ai dit, pourquoi ça se fout en main event ce truc-là? Et puis je sais pas, ils ont commencé à me chauffer en me rappelant, en mentionnant le départ de Dean Ambrose. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un état d'esprit. Vraiment, j'étais dans l'état d'esprit, c'est leur dernier match. Je me suis pas posé plus de questions sur le coup de est-ce que c'est un work ou pas. Ils ont réussi à me mettre dans l'ambiance, c'est le dernier match. Parce qu'il y avait la foule, parce que justement c'est le dernier main event, parce que bah, les mecs, les trois gars du Shield, t'as l'impression qu'ils le vivaient vraiment comme leur dernier match. Enfin, il y avait des sourires, il y avait une alchimie retrouvée. Enfin, ça m'a transporté. Ça faisait vraiment, ça m'a rappelé vraiment. En plus, ça m'a renvoyé bah, au début du Shield. Et, comme tu l'as dit, hein, cette équipe qui est l'équipe de l'année 2010, de cette décennie. Et j'étais au taquet, quoi. J'étais au taquet dans ce match-là.
Ouais, non, mais c'est clairement le clan de la décennie, donc je pense que pour tous les suiveurs qui suivent, je pense particulièrement d'ailleurs aux gens qui suivent le catch depuis début 2010-2009, le Shield est arrivé en 2012, donc ces gens-là ont suivi le Shield à travers toutes leurs péripéties WWE-esques, et clairement, bah, c'est vrai que dimanche, ce dernier match avec effectivement un Rollins qui était en feu absolu, et effectivement, qui a lâché plusieurs motherfucker et fuck, et il était surexcité, le Seth Rollins, quoi, c'était incroyable. Mais on sentait qu'il y avait effectivement de l'émotion, et en tout cas, c'était très bien joué, cette émotion. Et du coup, c'était, je pense, un bien mérité qu'ils reçoivent notre award du top de ce pay-per-view.
Bon, voilà, il ne nous reste plus que 4 semaines avant WrestleMania. Si vous voulez nous suivre, nous écouter, écouter nos analyses, c'est très simple. Catch Up, vous nous retrouvez sur iTunes, sur PodCloud et sur Spotify, également sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, votre top, votre flop et votre note. Le dernier match du Shield, est-ce que vous y croyez? Je ne sais pas, moi. Moi, je me dis peut-être, peut-être pas. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à nous mettre des étoiles, des cœurs, des pouces. Tout ce qui permet de nous dire que vous avez apprécié ce qu'on fait. Et comme ça, en plus, on est un peu mieux référencé. Donc, n'hésitez pas à partager, à parler du podcast Catch Up autour de vous. Merci à toi, Chris. Merci à toi, Chris, d'avoir attendu tout ce temps, 4 jours avant de parler de ce pay-per-view. C'est très sympa.
Ça va, j'ai survécu, tout va bien.
C'était compliqué, hein, on doit vous avouer, en interne, pour s'organiser, on enregistre jeudi. C'est assez rare d'enregistrer quand même la review d'un pay-per-view le jeudi. Mais on le fait. On n'abandonne pas. Never give up, comme dirait R-Truth. Never give up. Et on se
What's up?
retrouve très très vite hein, pour l'analyse du Monday Night Raw et l'analyse de SmackDown. On va pas vous lâcher jusqu'à WrestleMania, puisque la route pour WrestleMania, là, maintenant, c'est le boulevard, on y va. Il n'y a plus que 4 semaines pour nous hyper encore plus, si vous ne l'êtes pas déjà assez, pour le plus grand événement de catch au monde. On vous donne donc rendez-vous très vite et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut!
Salut peuple de catch-up, à bientôt, à la prochaine, ciao! Voilà, ouais, j'ai un equalizer qui apparaît, voilà.
Voilà, communément appelé Equalizer.
Tout à fait.